Rex Quandam Rexque Futurus. Épisode hors série. Kaamelott, deuxième volet, partie 1.
Bonjour et bienvenue dans Rex Quandam Rexque Futurus. Bonjour Antoine.
Bonjour Laïs.
Et on vous retrouve pour un de nos fameux hors-séries sur un média qui cette fois-ci ne vient pas du XIIIe siècle, qui n'est pas écrit en vieux français ou en vieil allemand ou en vieil italien. Il s'agit d'un film sorti au cinéma en multiplex dans toutes les salles que compte notre merveilleux royaume de l'ogre. Il s'agit de Kaamelott, deuxième volet, partie 1, sauf erreur. La première moitié de la deuxième partie de l'aventure Kaamelott au cinéma. La deuxième moitié de ce deuxième volet sortira normalement l'année prochaine. Et on attendra toujours le troisième volet. Les fans ont pu découvrir, retrouver l'univers élaboré par Alexandre Astier. Et alors, est-ce que les fans sont satisfaits? Est-ce que Antoine, toi, déjà, tu es satisfait?
Le problème, c'est qu'avec Kaamelott, tu peux même pas répondre d'une façon précise sans accidentellement. Tu te dis genre, c'est de la merde, c'est déjà un même Kaamelott, donc tu passes pour un fan relou de Kaamelott. écoute, moi, j'ai eu une expérience un peu bizarre. Bah, attends, je vais presser à se dire parce que si, tout sentiment un peu bizarre que j'ai par rapport à ce film, c'est peut-être dû au fait que je l'ai vu une fois et demie. En fait, j'ai regardé, je suis allé dans un cinéma, un nouveau cinéma qui vient d'ouvrir à Genève, où ils font des entractes maintenant. Et en fait, au moment où je pars pour l'entracte, pour aller, gambader un petit peu, parce que après passer une heure sous terre, t'as déjà un peu envie de te dégourdir les jambes, j'apprends par mon téléphone que ma fille est en train d'être malade, de vomir ses tripes partout dans la salle de bain. Pardon à ma fille dont je révèle les données médicales comme ça, mais enfin voilà, l'urgence impose que je rentre à la maison, que j'arrête le film, donc j'ai dû quitter la salle, partir sans demander mon reste, et je suis retourné du coup au cinéma le lendemain, je crois, ou deux jours après. Elle était toujours malade, mais ça allait mieux, c'était un peu plus gérable, et du coup pour redécouvrir la première partie, qui est quand même un petit peu lente, faut bien l'avouer, et découvrir cette deuxième partie du coup, et voir les quelques péripéties qui s'y découvrent. Donc j'ai peut-être un point de vue un peu...
J'admire ton respect de la vision d'Alexandre Astier, de non seulement voir la première partie en...
Alors je sais pas, je pense pas que c'est la vision d'Alexandre Astier,
parce que... parties successives.
Je suis pas sûr que de nos jours, les cinéastes coupent leurs films avec des entractes en tête, parce que c'est plus très courant. Enfin, je sais pas si en France c'est peut-être plus courant, mais en Suisse c'est assez rare, les entractes. Enfin, depuis que le géant Pathé s'est emparé de la plupart des salles de cinéma, à part quelques indépendants, mais comme Kaamelott premier volet, ça passe pas beaucoup chez les indépendants de nos jours. C'est rare qu'il y ait des salles qui fassent encore des entractes, parce que déjà ça coûte cher de prendre 20 minutes, 15 minutes au milieu de ton film, tu pourrais accumuler les séances. Mais il y a une salle qui vient d'ouvrir à Genève qui en propose, donc du coup, t'avais vraiment l'impression que c'était coupé en milieu d'une scène, quoi. T'avais pas le truc, c'était pas un film d'année, c'était pas genre.
C'était pas Laurence d'Arabie où t'as un joli écran titre qui te dit
ou Sound of Music, ou bien voilà, le jour on a regardé The Sound of Music, la mélodie du bonheur en français, et puis ça m'a fait marrer parce qu'il y a vraiment l'entracte, t'as la carte entracte, t'as la petite musique d'entracte qui joue pendant 5 minutes, puis enfin pas pendant 5 minutes, c'est un peu plus court, mais dans la version que tu trouves sur les plateformes, mais voilà, c'est non, c'était pas prévu pour, je pense, mais bon, d'un côté ça s'était interrompu à peu près au milieu où ils allaient commencer, je crois, où ils venaient ils étaient en plein milieu de la séance de la table ronde. Donc vraiment pas, même pas en plus un truc, une rupture de scène naturelle, hein, c'était vraiment tu sentais que ça allait continuer tout de suite, quoi. Donc voilà, mon impression du film, elle peut être colorée par cette façon de visionner le truc un peu alambiqué, mais peut-être que c'est ça. Du coup, j'étais pas dans le mood Kaamelott, j'ai pas respecté suffisamment l'ambition d'Alexandre Astier de faire une Gesamtkunstwerk. Il faut regarder Kaamelott dans un cinéma qu'il a dessiné lui-même à Lyon, où tu dois boire de l'eau du Rhône, une température précise, puis t'as la fosse d'orchestre qui est cachée. Peut-être que c'est ça qu'il faut faire pour apprécier Kaamelott, je sais pas, au cinéma.
Effectivement, ce serait un retour aux sources arthuriennes quelque part.
Mais ouais, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, en quelques...
Bah écoute, moi je précise d'abord une chose à nos chers auditeurs, c'est que vous serez plus malin que moi probablement sur... Si vous retournez écouter notre verdict sur Kaamelott premier volet, vous sauriez mieux que moi ce que j'en ai pensé, parce que je suis, j'ai pas rematé le film.
À peu près pareil.
J'ai pas réécouté ce que j'ai dit. Donc si je me contredis, ou que je change d'avis, ou que j'ai complètement vrillé par rapport à mes pronostics de la dernière fois, prenez-le comme une sorte de... Prenez-le comme un effet révélateur sur moi, parce que là, c'est entièrement frais.
La vraie question, c'est est-ce que tu as revu Kaamelott premier volet avant d'aller voir le deuxième volet?
Non,
je l'ai fait. Ça, j'ai fait.
Je ne l'ai pas revu, mais fidèle à ma tradition de Kaamelott, j'avais dit une fois, j'avais fait un tweet qui avait, je ne sais pas pourquoi tout le monde s'est mis à la retweeter, je disais, je ne fais jamais de revisionnage de Kaamelott, je trouve un type en soirée qui a l'air d'être fan de Kaamelott, et je dis genre c'est pas faux, et puis il se met à réciter des épisodes, donc je reste en contact avec le côté oral. Et donc Kaamelott premier volet, il est passé à la télé en Suisse il n'y a pas si longtemps en fait, je pense en prévision du film, et puis du coup j'avais un ami qui l'a vu, et puis qui m'a fait son ressenti, il n'avait pas aimé du tout, mais du coup ça m'a rafraîchi la vision du film. Et puis alors ouais, disons mon verdict, c'est que c'est un peu comme le premier film, je suis déjà tellement content que le truc existe parce que j'y croyais pas, que je suis là, oh trop bien, ce film existe. Et sur le moment, du début à la fin, je passais c'est le truc que tu dis dans une critique cinéma, je passais un bon moment. Donc moi j'ai bien aimé la photographie, j'ai bien aimé les costumes, j'ai bien aimé la musique. Les gros points positifs pour les costumes, comme la dernière fois, hein, c'est un peu un des highlights du film. Et disons, j'ai trouvé que le dosage global de l'humour Kaamelott était mieux dosé que dans le premier film. C'est peut-être que je l'ai pas revu, donc je sais pas, mais mon ressenti du film, j'étais là, je suis un peu moins en train de me frotter la tête.
C'est un peu particulier parce qu'il y avait... C'était un peu plus équilibré, c'était un peu plus dans le goût de ce que faisait la série, dans les versions les plus efficaces. Je pense à la saison 4, par exemple, qui avait un bon... Les saisons 3, 4, qui avaient des bons rapports. La saison 5, elle avait un problème, c'est qu'elle avait souvent des bons moments, mais après, tu passais longtemps avec dans des situations complètement... qui apportaient pas grand-chose, notamment tous les trucs chez dans les clans séparatistes. Enfin, c'était un peu longuet. Là, c'est un peu mieux. Il y a quand même des points noirs, je trouve, quand même. Disons, vu que c'est un peu morcelé dans le narratif, t'accompagnes un tel, c'est un peu moins unifié que dans le 1. Où tu avais quand même plus ou moins un point de vue, c'était celui d'Arthur, puis il y avait des gens qui venaient autour. Là, c'est quand même un peu plus éparpillé, puis là, c'est un peu plus inégal par moment, parce que t'as des moments où t'es avec des gens, bon, c'est un peu... tu t'emmerdes un peu plus qu'avec d'autres. Mais c'est vrai qu'effectivement, moment par moment, j'ai trouvé ça assez efficace. Tout ce qui est production visuelle, et ça reste Kaamelott, c'est mieux, j'ai trouvé ça plus recherché que le premier, qui avait un peu d'ambition, mais qui restait très dans la lignée de la saison 5, saison 6. C'est un cran au-dessus, clairement, en termes de valeur de production. Maintenant, j'ai plus de peine en termes de moment par moment, parce que quand même, il y avait des bons moments, mais il y avait aussi des longueurs quand même, des parties un peu plus difficiles pour moi. C'est vrai que c'était un peu... Peut-être aussi parce que le premier, j'avais quand même des attentes assez basses, parce que je me suis dit, bon, ça va être en gros un épisode de la série TV, ça risque d'être alambiqué, ça va évidemment pas être à la hauteur, on attend ça depuis trop longtemps, ça s'était attendu depuis trop longtemps. Donc. Ouais. Et en fait, il avait réussi quand même un bon équilibre, il y avait quand même un peu de tout ce qu'on aimait dans la série, il n'y avait pas de grand truc où j'aurais dû dire « Ah, il aurait fallu ça ». Et là, par contre, je pense que c'est pas qu'il manquait des choses ici, mais je trouve que le problème, c'est que ça va pas assez loin, en fait, dans certains aspects, qu'il manque presque d'efficacité parce qu'il essaie de mettre trop de trucs, en fait. C'est presque plus le verdict global que j'ai. Le premier avait un bon équilibre, et tu dis « Bon, bah, on va rester sur cette lignée », alors qu'en fait, il aurait fallu passer un palier au-dessus et amener plus de nouveautés, ce qui était un truc que, par exemple, la saison 6... pour le coup, était très efficace. Alors, il y avait des trucs qui étaient un peu plombants, mais le fait de changer complètement de point de vue, d'avoir cette époque différente, ces nouveaux personnages, tout c'était pas égaux, évidemment, en termes de qualité d'écriture et en termes de performance, mais il y avait quand même du nouveau, des trucs. La saison 5, pareil, il essayait des trucs. Là, c'est quand même un peu... Je trouve qu'on reste un peu statique, quand même. C'est ça aussi une partie du problème.
Il y a deux, trois trucs, on pourra en parler. Bah, je pense qu'on va commencer par une partie, on va vous faire un peu des notes sans trop spoiler l'histoire du film, etc. Bon, on va quand même devoir en parler. Ensuite, on vous parlera du contenu du film. Alors, c'est des storylines entrelacées, c'est-à-dire que des personnages qui partent un peu dans tous les sens à partir de la réunion de la table ronde. Et donc, on va suivre en général des personnages les uns après les autres. Il y a des gens qui ont dit que c'était un peu difficile à suivre. Moi, je suis pas d'accord, mais on verra. Mais du coup, on va pas vous résumer scène par scène, parce qu'il y a quand même beaucoup de coupures, on va plutôt vous dire qu'est-ce qui se passe de chaque côté. Et à la fin, on essaiera de faire peut-être un pronostic de ce qu'on a pensé, qu'est-ce qu'on attendrait pour la deuxième partie. Moi, ce que je dirais aussi, c'est que c'est un des problèmes de ces storylines entrecoupées, c'est que entre les chamailleries Kaamelott, où les gens, ils arrivent à rien faire sans se chamailler pendant 5 minutes avant. Alors, c'est un peu, c'est ça qui fait aussi le charme de la série Kaamelott, donc c'est dur de s'en plaindre, on peut pas trop l'enlever. Entre ça et le fait que les personnages sont séparés les uns des autres, en fait, il se passe pas grand-chose. Le film, il est long, il fait quoi, 2h20, et malgré ça, comme tu le dis, en fait, quand il se finit, on est en plein, enfin, il se finit au milieu, t'as vraiment l'action qui commence, t'as vraiment plein de scènes d'action qui commencent à accélérer, et puis, bam, le film est fini, et puis, rendez-vous l'année prochaine. Alors, déjà, c'est aussi un pari un peu risqué, parce qu'évidemment, faire un film de 6 heures au cinéma, c'était pas possible, mais... Déjà que je me rappelais pas tant du premier volet, est-ce que je me rappellerai assez de ce volet-là l'année prochaine ? Bon, je pense.
C'est un peu court quand même comme temps, mais je pense que c'est un pari quand même difficile parce que c'est un peu un des cœurs du problème pour moi. C'est que, alors bon, tu me diras peut-être que les gens qui vont voir Kaamelott, c'est tous des grands fans, ils ont tous tout vu, mais autant le premier film Kaamelott, tu vois, tu pouvais quand même le regarder sans avoir vu la série, je pense, puis avoir une idée assez. Les trucs sont assez clairs. Il y a peut-être des moments qui s'est m'évanouir, par exemple, ben, les étaient pas très bien expliqués. Mais tu pouvais comprendre dans le contexte et tout ce que tu pouvais savoir sur le roi Arthur, puis t'avais quand même un petit écran au début. Là, c'est quand même beaucoup, ça va quand même être beaucoup plus compliqué d'aller déjà de. Alors d'un côté, il a introduit plein de nouveaux personnages, il en réintroduit, mais le pari de, par exemple, une personne pourrait pas voir. Je pense pas que ça sera possible de voir le. C'est pas possible de voir ce film puis se dire c'est bon, j'ai fini, je veux pas voir autre chose. Alors qu'autant tu peux peut-être regarder, je sais pas moi, le premier film sur le Hobbit. Bon, tu dis t'as envie de continuer à voir la suite, mais au moins t'avais vaguement l'idée qu'il y avait eu un début, une action, mis une fin, puis t'as la fin, t'as une perspective d'aventure supplémentaire, la quête continue. Ouais. Mais t'es vraiment pas. Tu peux être satisfait narrativement. Là, c'est quand même plus compliqué, je trouve. Surtout
c'est
si t'es
compliqué
pas
parce,
grand fan
parce
de
qu'on
la
a l'acte. On a l'acte 1 et demi de l'histoire qui est vraiment... ça rend difficile de le juger parce que certaines de mes critiques, ça va être un peu justement que c'est pas conclusif, mais en même temps, c'est normal que ce soit pas conclusif ou que ça mène à rien parce qu'on n'est pas à la fin.
Tu pourrais reprocher à Alexandre Astier d'avoir essayé de faire un truc trop dilué dans la première partie, d'avoir pas assez coupé dans le gras pour essayer d'accélérer un peu puis de finir sur une développer un peu plus les intrigues là-dedans avant de continuer sur la suite. Ou alors peut-être qu'il aurait dû faire 3 films, ce qui est peut-être un peu risqué aussi, mais... Il y a vraiment ce moment où tu dirais qu'il aurait pu couper soit, peut-être qu'il aurait fallu une résolution en plus, soit qu'il arrête un petit peu avant puis qu'il garde ça comme ouverture ou comme prologue ou que ce soit genre ça pourrait être un très bon genre une demi-heure spéciale Kaamelott, l'aventure recommence pour relancer les gens à aller voir le film, le deuxième film, histoire de maintenir un peu la pression, tu vois, un court-métrage qui est diffusé un petit peu avant. Mais là, en l'état, c'est vrai que c'est compliqué. Et je pense que tu peux quand même faire cette critique parce que ça reste un film. Tu vois, t'as payé ton billet de cinéma, tu vas voir un film. Tu t'attends à passer. Tu t'attends quand même à une certaine satisfaction, une certaine résolution, même si ça n'est que temporaire. Je veux dire, à la fin du Crépuscule des Dieux, à la fin de L'Or du Rhin ou à la fin du Siegfried, enfin des opéras du cycle de Wagner, t'as quand même. Ça reste une œuvre totale que tu peux voir à la suite. Mais enfin, tu peux aller voir La Valkyrie, puis t'as quand même. Désolé de faire des références à Wagner. C'est pour continuer ma blague sur les Gesamtkunstwerk. Non, mais allez, Astier me fait penser à Wagner pour des raisons. Je regarde trop Kaamelott, j'ai envie d'envahir la Pologne.
Il te fait penser à Wagner, non péjorativement.
Ça peut être péjoratif aussi. Hein. Je suis prêt à tout.
Mais ce qui m'a frappé en fait, c'est que j'ai vu beaucoup de gens dire que les storylines entrecoupées c'était difficile à suivre. Alors pour moi, c'était un peu incompréhensible parce que j'étais là, mais c'est du niveau d'un cartoon pour enfants. En fait, même j'ai trouvé que le problème, c'est que Astier a clairement tenté de faire la technique classique de l'entrelacement. En fait, moi quand je voyais les critiques du film, je m'attendais à ce que ce soit un Maelstrom, que ce soit le Lancelot en prose, tu sais, que tu quittes des scènes, tu sais plus ce que t'as fait, enfin que ce soit de la confusion. Et
j'étais prêt. Nouveau cinéma, années 70, années 80, un peu conceptuel.
J'aurais été prêt à défendre Astier au nom de la traduction arthurienne, puis là, mais en fait, ça va. Et en fait, le problème pour moi, c'est justement que les storylines sont pas assez entremêlées. Et que justement, un des attraits principaux de Kaamelott, c'est que tous les acteurs sont un peu dans leur propre univers de jeu d'acteurs. Ils sont tous dans un registre un peu différent. Il y en a qui sont un peu dans la même catégorie, mais typiquement dans ce film on en a un nouveau, c'est le druide Conle qui est dans un style très empoulé comme ça, puis donc ça, c'est un nouveau caractère, un nouveau personnage dans le roster, c'est très bien. Mais le problème, c'est que comme les personnages partent chacun de leur côté, tu n'as pas ces interactions entre personnages différents qui font un peu le charme de la série. Genre typiquement la série, quand c'était des épisodes courts, bah t'avais un épisode, c'était Léodagan et Perceval au coin du feu, et bah c'était intéressant parce que c'était là, bah c'est deux personnages qu'on voit pas seul interagir.
Un peu, il y avait quand même des ensembles de personnages que tu retrouvais plus souvent que d'autres. Genre, par exemple, t'avais quand même Célie, par exemple, elle interagissait pas des masses avec Perceval non plus, par exemple. Il y avait toujours, oui. C'était toujours un peu. Mais c'est vrai que là, ça aurait été l'occasion de, pour mieux intégrer les anciens. Alors, Cole, pour le coup, ça va encore parce qu'il s'ajoute un duo de personnages qui est déjà existant, puis qui a déjà des.
C'est ça.
Il s'intègre assez bien. Mais par exemple, tous les jeunes, notamment.
Alors, les jeunes, c'est le problème.
Les filles de Perceval, c'est compliqué, quoi. Parce qu'ils sont.
Les filles de Caradoc.
Les filles de Caradoc. Qui sont
introduites avec déjà, je les confonds tout le temps. Megan et Maven, je les confonds tout le temps. Puis elles sont avec Garrett. Et puis, c'est comment il s'appelle le quatrième, je sais plus. Mais ce groupe de quatre, le problème, c'est que les quatre personnages, c'est Gouvin.
Yagou, je crois, il s'appelle.
Yagou, oui.
Il n'y a pas Petrock, l'époux de. Qui est le fils de Guetno. Non, pas de Guetno, le fils de l'autre paysan dont j'oublie toujours le nom.
Mais ce qui est un problème, c'est que ces quatre-là, par exemple, leurs personnalités sont beaucoup trop proches. Ils sont qu'eux ensemble. Et puis leur personnalité, c'est Gouvin, quoi. C'est le jeune, un peu les yeux émoustillés, un peu bête.
C'est un mélange d'Yvain et Gouvin. Il y a quand même un peu du Yvain.
C'est
un
ça.
Peu...
Le problème, c'est qu'il y a d'autres groupes qui sont mieux faits. T'as le groupe de Lucan qui est pas mal, parce que t'en as un qui est un peu ce personnage très infantile, Lucan. Et un troisième, t'as le groupe de Yvain, où t'en as un qui est un gosse, et puis un qui a un
le
accent
du Gouvin,
sud.
Tu veux dire
De Gouvin, pardon. Yvain n'est pas encore dans le film. Mais le groupe qui est en quête de Yvain, le chevalier au lion, et qui. Bah justement, eux, par exemple, ils partent, on les voit au début partir, puis après, on les voit après, puis ils disent on n'a rien trouvé, t'es là, bon, ben.
Ça fait partie du problème aussi, c'est qu'ils mélangent pas assez les. Tu vois, alors, il y a un groupe pour qui ça marche bien, c'est les trois mercenaires, dont deux qu'on avait déjà vu dans le premier volet, qui ont un troisième larron. Leur interaction avec Arthur, c'est chouette. Leurs interactions avec les nouveaux personnages qu'on voit aussi, enfin je dis nouveau, pas que nouveau, mais
ouais.
C'est super, eux ils marchent bien ensemble, mais c'est dommage parce que ça aurait été bien d'amener cette énergie un peu, tu vois, c'est marrant de les découvrir, mais ça marche pas du tout aussi bien avec précisément les enfants de Caradoc, avec les groupes de autour de Lucan, moi je suis un peu plus sceptique, et puis ça laisse un peu des espèces de comme tu dis, de bulles en fait de personnages qui, alors que ce serait enrichissant, intéressant de les voir interagir avec un peu d'autres, quoi, de voir un
c'est
peu
ça.
Plus, je sais pas, les vieux de la vie. Alors après, il y a ce côté aussi, cette opposition entre ceux qui veulent partir à l'aventure et ceux qui veulent pas rester chez eux, ce qui est tout à fait un thème du film, hein, et c'est pas étonnant que du coup on n'ait pas Léo Dagan qui parte à l'aventure avec les enfants de Caradoc, hein, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'interaction justement parce que cette friction elle intervient à la table ronde, mais après tu vois, t'as pas par exemple. Moi, on pourrait pu imaginer que le groupe des filles de Caradoc, elles doivent passer par plusieurs royaumes, puis elles doivent du coup négocier pour obtenir de l'aide ou des trucs comme ça auprès de genre, je sais pas, Calogrenant ou de quelqu'un d'autre qui veut pas les aider. Puis voilà, il y aurait des moyens de faire ça de façon un peu plus, je dirais.
Là, en fait, typiquement, le groupe des filles de Megan, Megan et compagnie, ils partent dans un royaume nordique très lointain, donc tu sais très bien que. En fait, moi, je m'attendais à ce que ce soit justement différents groupes qui se croisent sur les chemins de l'aventure, et puis, ah merde, on a été séparés à cause d'une attaque ou quelque chose, et du coup, les groupes se recomposent autrement. Et parce que pour moi, c'est ça un peu une des forces de Kaamelott, c'est d'avoir des personnages très caricaturaux, très simples, en fait. Les personnages sont très simples, mais leurs interactions peuvent être très subtiles, en fait. C'est une des forces de. C'est souvent une force, là, je sors de médium, mais de la BD. Tu vois, un truc comme, je sais pas, les BD franco-belges classiques, souvent les personnages, c'est un peu des archétypes très simples, mais leurs interactions peuvent quand même être. Et Astier joue là-dessus. Et là, c'est dommage. Je donne un exemple d'entrelacement que je trouvais mieux, c'était la saison 5. C'est que t'avais plein de storylines qui partaient dans tous les sens, comme tu le disais, mais en fait, elles se répercutaient les unes sur les autres.
Oui, parce qu'Arthur finissait par croiser tout le monde. Parce qu'il y avait Arthur aussi, qui était un peu l'élément mouvant, en fait. Et du coup, il allait.
Mais même, je prends un exemple sans Arthur, c'est t'as toutes les intrigues à la cour où Léo Dagan se retrouve roi, il veut faire défendre les avant-postes, donc t'as Lionel et Bort qui se retrouvent à défendre un avant-poste, il y a Lancelot qui arrive, il se prend une flèche, donc t'as toutes ces interactions en fait.
C'était beaucoup plus entrelacé.
Lancelot, il s'est pris une flèche, la Dame du Lac le retrouve et lui dit mais vous, et puis là on a tout le passage qui est vraiment pour moi excellent où justement elle lui dit mais vous avez jamais été discipliné, puis on voit que Lancelot était censé être l'élu mais qu'il a été rejeté par les dieux, puis t'as tout le truc sur la comptine de guérison des plaies qui est très iconique, et puis il se guérit. Et du coup, à la fin, quand il vient pour buter Arthur, que Arthur est en train de se suicider et qu'il le soigne avec la routine de guérison des plaies, tu as une longue résonance qui fait que ça marche symboliquement et dans les thèmes de l'histoire. Tu te dis, c'est contre-intuitif, mais ça m'a été amené par ça. Et pour moi, c'est vraiment, pour moi, la saison 5, c'est un peu ma préférée. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui est dommage, c'est qu'on est un peu en train de marcher à reculons. Le premier volet, il ressemblait beaucoup plus à la saison 6. Donc, on avait de nouveau des flashbacks à l'époque romaine dans la carrière d'Arthur. Là, on revient un peu sur les pas et on est beaucoup plus dans la saison 5. Hein. Meleagant est de retour, beaucoup plus, un ton plus sombre, Meleagant de retour, etc. Mais je trouve que, pour moi, c'était ça qui était vraiment fort, et c'est ce que j'attendais un peu. Alors peut-être que ce sera le cas dans la deuxième partie, on verra. Mais là, pour l'instant, il y a un whiplash très fort entre, même entre, disons, entre la série et le premier volet, c'était normal qu'il y ait un choc, parce que voilà, il s'est passé tellement de temps. Mais le choc entre les deux, quelqu'un qui regarde les trucs à la suite, tu regardes la saison 6, la fin, bientôt, Arthur sera de nouveau un héros. Et puis moi, je me rappelle quand on l'a vu à la télé, etc., et qu'on attendait la suite, on savait qu'avec M6, ce serait compliqué pour avoir les droits, mais on était hype. Premier volet, en fait, Arthur n'a pas envie d'être un héros. Il va passer la moitié du film à se plaindre, et puis en fait, il se trouve qu'il est déprimé, mais qu'il se soucie quand même des gens, et du coup, ben, c'est parce qu'il se soucie des gens qu'il va réussir à se bouger, mais au bout de 1h30, 1h45 quand même, hein, il ne faut pas déconner.
Ouais, c'est okay. Ça qui était un des problèmes du premier film, c'était le fait que il annihilait un petit peu le... Alors, il annihilait pas complètement, parce que tu pouvais... Mais il fallait enlever la dernière scène de la série, quoi. Sinon, ça faisait pas vraiment sens, je trouvais.
C'est qu'il faut commencer par c'est le monomythe. Il faut commencer par le refus de l'appel. Donc, il faut qu'il refuse l'appel pendant la moitié du film, quoi. C'est un peu le problème de cette version moderne. Et le deuxième film fait un peu pareil. Parce que...
Oui.
Pour moi, le côté Arthur mélancolique sur son lit de douleur, qui est déprimé, qui veut rien faire, mais qui au fond, ah, en fait, je me soucie des gens, donc Caradoc a besoin de mon aide. De façon un peu incohérente d'ailleurs, ça c'est un autre problème, mais on a fait le tour, quoi. Là, il replante encore une fois l'épée. Désolé, spoiler, hein, mais on a un peu fait le tour, et puis pour moi, j'ai un peu l'impression. C'est un peu ce qu'il y avait avec la dernière trilogie Star Wars, où les réalisateurs se battent les uns contre les autres d'un volet à l'autre. Mais là, c'est Astier 2025 qui se bat contre Astier 2021. Le film, le premier, il se passait pas, enfin voilà, c'était sympa, mais il avait des petits trucs conclusifs à la fin. T'avais le mariage de Petrock, par exemple, avec la fille de Caradoc. Et puis, là, dès le début du film, bah, c'est oblitéré parce qu'elle veut partir à l'aventure. Et puis que lui, c'est un paysan un peu boutiquier qui veut, c'est fait sur le ton de l'humour, donc c'est pas grave. Mais c'est assez symptomatique que la scène, finale conclusive du premier film, on commence par te dire en fait non. Et enfin, moi, ce qui m'a vraiment.
Mariée, mais elle part sans lui, quoi. En fait.
Elle part sans lui. Alors, c'est assez marrant. En vrai, c'est marrant. Là, c'est plutôt bien géré. Mais là où ça m'a vraiment gêné, c'est la relation entre Arthur et Guenièvre. Dans le premier film, t'avais ce mec qui était le soupirant de Guenièvre, qui lui envoyait des gâteaux avec des messages dedans et qui essayait de grimper la tour et qui arrivait pas. Puis alors, il libérait Guenièvre en passant par l'escalier. Puis ensuite, t'avais cette scène où Arthur grimpait le lierre de la tour où Guenièvre était. Et puis, la rejoignait, puis il y avait cette espèce de moment qui était vu comme une espèce de moment de tendresse entre eux. Enfin, t'avais cette idée de Arthur qui était là, bon, ben, il faut que je fasse amende honorable, je vais essayer de faire un geste un peu romantique, un peu sentimental pour elle. Puis c'était un peu, j'étais, ah, c'est chou, on va... Et puis surtout, leur relation va passer à autre chose. Parce que Astier, à la base, c'était Guenièvre, c'est une gourde, elle est stupide, et puis au début, ben, Arthur, il l'aime pas parce qu'elle est stupide. Et puis après, c'est en fait, non, il y a une histoire secrète derrière dans la saison 6 qui explique pourquoi il a pas envie de coucher avec, ok ? Mais sauf que le premier volet, le premier film, c'était un peu... Ça donnait l'impression qu'il se reprenait contact avec ses traumatismes de l'époque, etc. Il veut pas tuer Lancelot. Mais du coup, la relation entre Arthur et Guenièvre évolue pas. Arthur est toujours déprimé. Enfin, t'as vraiment ce truc qu'il faut qu'on parte d'une les premières scènes. Ça, on doit être dans la stagnation totale. Et donc, même ce que le film précédent a fait pour dire OK, on passe à autre chose, eh ben on passe pas à autre chose. Et ça, j'ai vraiment trouvé.
Je me demande si c'est pas un peu le côté le problème téléologique, c'est que il y a clairement à un moment donné l'ambition d'avoir la relation incestueuse entre Arthur et sa sœur, en l'occurrence, c'est Anna dans cette version. C'est pas, enfin, elle a plusieurs noms selon les versions, mais c'était quelque chose qu'elle mentionnait dans la saison 6, alors qu'il était sur son lit de mort, enfin, qu'il agonisait. Est-ce que vous avez déjà voulu coucher votre sœur, vous y viendrez, ou un truc comme ça. Et là, on introduit la potion de c'est pas une potion de vérité, mais la potion d'amour, un peu à la
ouais, c'est un peu
Tristan
gros,
quoi. Donc tu sens de voir venir le truc. Et du coup, pour que ça marche, il faut je pense qu'il y a ce côté un peu, il faut qu'il y ait cette potion qui soit impliquée pour que voilà, ils finissent par avoir cet enfant avec Anna. Et donc du coup, on peut pas tout de suite le faire avoir une relation normale avec Guenièvre, parce que du coup, il faut qu'on introduise cet élément-là. Donc je me demande si c'est pas un peu ça qui joue là-dedans. Pour le coup, le personnage de Guenièvre, le fait de la rendre à moitié sourde j'ai trouvé ça super bizarre. Ça faisait vraiment comme s'il fallait la rendre un peu, lui trouver une autre excuse pour qu'elle soit un peu bébête. Alors que, je sais pas, c'était assez curieux, quoi. Il y a le côté, disons, le fait de le motiver la culpabilité d'Arthur sur son inaction Et le fait que du coup, bah, Guenièvre en fasse les frais, ça c'est clairement un motivateur pour lui, donc ça c'est plutôt bien. C'est plutôt bien écrit, je trouve. Mais ce qui en ressort sur Guenièvre, tu vois, ça aurait été quand même plus intéressant d'avoir Guenièvre vraiment blessé ou d'avoir Guenièvre vraiment... Là, le truc, c'est que ça sert juste à la rendre un peu sourde, puis du coup, elle doit répéter des trucs, elle l'entend pas bien, ça permet de faire des blagues. C'est un peu dommage, ça se marche un peu sur les pieds, ouais. En fait.
C'est une tentative de tragicomique, mais avec la blague du professeur Tournesol, ça marche pas tout à fait. Après, ça aurait pu... En fait, moi, là où je trouve que ça marche pas, c'est que justement, ça a pas vraiment d'impact sur l'évolution.
C'est un peu comme pour toi, on fait un peu du surplace, en fait. C'est le problème de Kaamelott. Alors déjà, le film 1, bon, tu pouvais te dire, le surplace, il y avait des trucs qui avançaient, t'avais comme disait. Et là, on reste vraiment sur un truc, c'est quand même assez particulier, quoi. Je trouve, alors que l'idée, c'est peut-être d'aller un peu au-delà, de dépasser, t'es quand même sur un truc qui reste un peu figé, globalement. Mais c'est après il y a du moment par moment qui marche bien et les trucs qui innovent et qui relancent le truc qui font bouger l'action sont pour le coup plutôt pas mal. Je suis moyennement convaincu par tout le truc autour de Méléagant, de la magie noire, de Lancelot. C'est un peu curieux tout ce c'est pas très très clair ou alors ça va un peu vers quelque chose. On a l'impression.
C'est un peu Asté qui remet un peu du donjon et dragon là-dedans.
Il y avait le truc, c'est qu'il faisait de la magie. Il a été clairement en train de faire de la. Enfin, le truc de relancer le truc que Lancelot faisait à la fin de la saison. À la fin de l'épisode du premier volet, comme de la magie noire. Du coup, il arrive une armure blanche, il fait de la magie noire. Il y a des trucs pas clairs qui se passaient. Et là, il va continuer après sa défaite. C'est pour ça que peut-être que... Le point de vue théologique autour de Lancelot, en fait, la relation avec les dieux, c'est un truc qui est très, très flou dans cette série, j'ai l'impression aussi.
Oui, parce que le volet précédent, c'est que les dieux se retournaient contre lui parce qu'ils divisaient le royaume de l'ogre. Ils donnaient l'île de... Comment elle s'appelle
Il essaie de passer à l'île de Thanet.
L'île de Thanet aux Saxons.
Et le fait que Arthur n'ait pas rempli la mission des dieux, ça le désavoue auprès des dieux. Mais d'un côté, il y a un des dieux, la réponse qui revient du coup, est-ce que c'était un dieu qui était du côté de Lancelot, ou en tout cas anti-Arthur, qui continue qui peut revenir à cause de ça et qui continuait à essayer de manipuler Lancelot? Est-ce qu'il y a des conflits entre dieux? Où joue le dieu unique? Parce que typiquement, la Dame du Lac, elle était du côté dieu unique. Elle admonait que c'était Arthur quand il essayait de prier à Mars parce que il y a le dieu unique maintenant, il faut penser à ça, alors qu'en fait elle-même elle est plus ou moins censée être une divinité haute. Enfin, c'est quand même assez curieux, quoi.
Je sais pas si le Reddit athéisme va vraiment réussir à se distiller dedans. Il faut peut-être voir justement que Méléagant et la Dame du Lac, ils ont des relations symétriques, et que quand Méléagant il est envoyé, c'est pas très différent du bannissement de la Dame du Lac, en fait. C'est que
le problème, c'est que la Dame du Lac revient en faveur, visiblement.
Quand Lancelot fait un pacte avec les démons, c'est manifestement lié, quoi.
C'est le fait qu'ils arrivent dans cette espèce d'endroit bizarre, cette histoire de trois fontaines.
Le montage laisse vraiment entendre que c'est Lancelot a franchi une ligne rouge et que du coup les dieux se disent on reprend la Dame du Lac, elle avait raison.
Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que l'entrelacement du film,
que ce soit pas entièrement clair, pour moi c'est pas vraiment un problème. Même je préférerais avoir plus de mystère et plus de trucs.
Oui, mais c'est ça le truc, c'est qu'on est un peu trop entre deux, je trouve. En fait, soit il y a du pas clair, soit là il y a des tentatives d'expliquer des trucs. Là, tout le monde disserte sur le fait que les dieux ont abandonné Arthur. Enfin, c'est un peu Par contre, un truc que je trouve, du coup, ça illustre un truc que je trouve dommage aussi sur la structure, c'est que c'est des moments forts, quoi. Ces moments où Lancelot, on va peut-être en reparler plus tard dans les spoilers, mais ces moments forts auraient fait des meilleurs point conclusif que celui auquel on a fini, en fait. Et le truc, c'est que le désensalassement des histoires aurait peut-être permis de le faire, de bouger les trucs un petit peu. Mais voilà, il y a un peu l'impression qu'Arthur s'est tenu une espèce de timeline très stricte et que du coup, c'était un peu problématique parce qu'il pouvait pas finir. Il y a une espèce de logique interne au truc qui voulait pas retoucher, je sais pas, et qui l'a empêché de faire une structure vraiment propulsive, efficace, quoi.
Je pense que le film a clairement été trop long puis qu'ils se sont retrouvés avec un problème un peu insoluble à devoir le couper en deux.
Ouais, à mon avis, c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être moins pire que d'avoir un film extrêmement long. Mais s'il avait été pensé d'abord comme deux films, mais tu vois, à partir du moment où tu sais que tu vas faire deux films, je me demande pourquoi tu revois pas un peu ton montage, quoi.
Apparemment, il l'a revu, il disait qu'il a continué à trafiquer le montage jusqu'à une semaine avant la sortie en salle, vraiment jusqu'à la dernière minute.
Il aurait dû trafiquer un peu plus, alors, à mon avis. Peut-être un peu ça.
Ou peut-être un peu moins, on ne sait pas. Hein. Ça, c'est le problème
c'est vrai.
Des perfectionnistes. Moi, j'ai eu, sur le point de vue global, beaucoup de gens se plaindre des dialogues de Kaamelott qui commencent à en avoir un peu. Parce qu'en fait, je pense que les dialogues de Kaamelott, c'est pas un problème en soi, mais quand, justement, l'histoire ne te donne rien et que tu n'as pas cette variété et que les choses avancent très peu, ça devient un peu plus pénible à endurer, même si, comme je l'ai dit, je trouve que c'était mieux dosé. Ceci dit, j'ai vu beaucoup de critiques qui me paraissaient un peu incohérentes et qui sont assez révélatrices aussi du fait que je pense que Assis, il a un problème insoluble, c'est que les fans ne savent pas ce qu'ils veulent non plus. Il doit faire une suite pour des gens qui au sens littéral, ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Et par exemple, j'ai vu des gens se plaindre « Ah là là, les dialogues n'ont aucun intérêt, ils sont pas drôles. C'est des chaméries qui avancent rien. » Par contre, la scène avec Christian Clavier, c'était super parce qu'on avait l'impression de revenir dans le Kaamelott de l'époque. Alors j'étais là, c'est typiquement une scène de dialogue qui avance, enfin, pas qui avance à rien, mais qui est encore pire. C'est une scène de dialogue d'exposition. Parce que Assis a toujours dit que c'était mal et qu'il fallait pas faire et que c'était la règle numéro un, du dialogue. Alors pour moi, je serais pas aussi catégorique parce que je pense que c'est pas un mal. Mais c'est un peu, et pareil, les gens qui se plaignent de l'absence de Perceval, alors que si Perceval était dans le film, il y aurait 15 minutes de plus de lui en train de gueuler des trucs pas drôles, genre, c'est vraiment se plaindre que la bouffe est pas bonne et que les portions sont trop petites, hein. La plupart des critiques que j'ai vues, c'était vraiment ça, quoi. Et puis, d'ailleurs, je suis surpris, on n'a pas encore mentionné l'absence de Perceval, quand même.
Oui, d'ailleurs, l'absence de Perceval, sans doute, alors, l'explication, le consensus plus ou moins officiel entre ce qu'a dit Franck Pithiou et ce qu'a dit Arthur, c'est que Franck Pithiou n'était pas super fan.
Astier, tu dis tout le temps Arthur pour dire Astier, ce que je comprends.
Astier. C'est que Perceval n'était pas fan. que Pithiou n'était pas fan de la direction que prenait Perceval, qui pensait que ça évoluait pas assez. Alors je ne sais pas si c'est Pithiou qui se faisait une idée un peu, peut-être un peu mal dosée de son personnage, mais vu la façon dont Perceval était orienté, disons, par la série au cours de la saison 4, 5 et 6, c'est vrai que là où on le retrouvait dans le film, dans le premier volet, fallait s'accrocher, quoi. C'était encore Perceval qui fait des bêtises avec avec Caradoc, ils se gueulent dessus, ils sont un peu fâchés, il aime pas m'évanoui, même genre de délire. Et c'est vrai que ça amenait pas à grand-chose, quoi. Il était un peu une non-entité dans le premier film. Et je me suis posé la question, est-ce que le problème, c'est que, en fait, Assis sait pas trop quoi faire de Perceval? Et donc, du coup, il est un peu... Ou alors, il doit attendre l'ultime moment pour le rendre truc, et ça plombe un peu Pithiou, ce qui est possible. Ou alors, peut-être que Astier voulait aller faire évoluer Perceval dans une direction que Pithiou trouvait... mais ce qu'il avait l'air de dire, Pithiou, c'était que c'était un peu justement le manque d'évolution et le manque de matière un peu... Et je peux le comprendre, hein, si après le premier volet... disons, si on me sert un truc du même genre, moi je peux comprendre qu'en tant qu'acteur on en est un peu marre, quoi.
C'est ça.
Parce qu'autant Caradoc, lui, pour le coup, et je me demande même si l'idée d'Astier était pas précisément ce qu'on a dans le film, en fait.
Ouais.
Je serais pas du tout surpris si, en fait, à la base, dès le début, il y avait cette histoire de l'aide de Perceval.
Moi, je crois qu'il a l'air d'avoir dit que c'était adapté, mais peut-être qu'on aurait eu Perceval qui avait une quête solitaire de son côté.
On l'aurait un peu plus vu en train d'écrire des lettres. Je sais pas, mais moi, là, comme ça va, je me demande si l'idée d'Astier, c'était pas genre, on va avoir un Perceval un peu qui va un peu aller mourir hors champ, on va le voir de temps en temps, mais il va être hors de contact des autres, il va juste envoyer des lettres un peu vénères. Et c'est ça, en fait, qui va être l'élément motivateur à la fin. Je serais pas surpris qu'on découvre qu'en fait, Perceval est mort dans le deuxième volet. Parce que c'est très... ouais. Tu vois, il y a un côté un peu...
Ça pourrait être touchant. Après, moi, je pense pas du tout. Je pense que ça a vraiment été écrit pour rafistoler le film, ce qui montre aussi les problèmes que Astier, il affronte. C'est pas un roman. Il a pas tous les... S'il a pas les acteurs à disposition, il peut pas avoir les personnages.
Enfin, la question que je me suis posée, en fait, qu'est-ce qu'il aurait fait, Perceval, dans une version du film où il y a Pithiou? Parce qu'ils ont pas pu tout réécrire,
tu vois. Moi, je pense simplement, il était dans le groupe avec Caradoc et puis ils allaient faire leur truc en Méditerranée, quoi. Je pense sincèrement que...
Et c'est lui qui avait le rêve, par exemple, au lieu de Caradoc?
Ouais, parce que c'est lui qui parlait de ses rêves à Arthur, tu vois. C'était un des thèmes de la série qui était... C'était la fin de la saison 6, on avait ça. Moi, ce que je trouve très peu naturel, c'est le moment... Bon, on spoil de nouveau, mais vers la fin du film, quand Arthur, il a une lettre de Perceval et qu'il est là, j'en ai rien à foutre, il la balance à la mer... Ça, il y a tout le monde qui l'a interprété comme de façon un peu psychologisante pour dire ça montre tout le bien que Astier pense de, enfin c'est un peu le dépit d'Astier de pas avoir Franck Pithiou dans son film. Et j'aime pas ce genre d'interprétation, mais c'est vrai que je vois pas comment l'interpréter autrement parce que ça colle pas vraiment avec le personnage d'Arthur. Le côté moi j'y crois pas. La dernière scène, d'ailleurs, peut-être je me trompe, mais il me semble la fin du premier film, c'est Arthur et Perceval qui visitent Sting. Hengist, et puis Hengist dit « Ah, j'ai bien envie de joindre la table ronde », donc t'as un peu le whiplash, il est aussi là dans le fait qu'on quitte le premier film avec Perceval aux côtés d'Arthur, un peu comme son bras, peut-être pas son bras droit, mais il est quand même là.
Il joue le rôle que Lancelot jouait dans la... un peu dans le... on pouvait s'attendre à ce qu'il ait un rôle un peu à la Lancelot dans le...
C'est ça, puis ça aurait pu être marrant d'avoir justement Perceval qui joue, peut-être qu'il devait rejouer ce rôle de Sénéchal qui essaie de se faire à ce rôle-là, puis ça aurait créé un truc un peu marrant et en même
mais
temps...
Mais tu vois, je sais pas, parce que je pense que c'est vraiment le truc, c'est vraiment un problème, c'est qu'à mon avis, effectivement, ça aurait été une bonne perspective, mais que je prendrais les paris, Astier, il est pas... Il a un peu de peine justement à faire évoluer dans son train, il revient vite dans ses cycles et dans ses habitudes, et tu aurais eu effectivement Perceval à la taverne avec Caradoc comme ça en train de faire la vaisselle, et avec Merlin et Caradoc, parce que c'est un peu le disons la structure un peu habituelle dans laquelle ils étaient rentrés à partir de la saison 5. Et peut-être que ça a gonflé Pitiot. Mais effectivement, ça paraît très logique. Ouais. Mais voilà, on ne saura jamais peut-être. Peut-être qu'un jour, il va nous révéler le plan secret une fois qu'ils sont peut-être
débauchés. Je le vois bien, une fois que c'est fini, publier les différentes versions du script, qu'on a une espèce de... un peu comme l'histoire de la Terre du Milieu, mais l'histoire de Kaamelott, tu vois. Moi, en vrai, ça m'intéresserait. Là, ces temps, c'est comme j'étais en train de relire le script de Excalibur de Borman. Parce qu'il y a plein de trucs dans le film où, justement, je me demandais, est-ce qu'ils n'ont pas coupé une storyline avec Lancelot et le Graal dans ce film ? Parce que t'as Lancelot qui a un Graal sur son armure. Quand il arrive dans le film, il dit « I'm sworn to the quest », mais c'est pas expliqué quelle quête, parce que la quête du Graal n'a pas commencé. Et en fait, oui, dans le script de base qui était hyper long, il était dans une quête pour la justice. Enfin, il disait je promets de jamais me dormir deux fois au même endroit sans avoir jusqu'à ce que le monde soit juste ou je sais pas quoi. Et en fait, c'était intéressant, c'est que c'était pas une storyline qui a été coupée. C'est des réécritures pour créer une espèce pour créer des liens au sein du film finalement. Mm-hmm. Parce que c'était pas du tout dans le premier script. Donc moi, ça m'intéresserait. Maintenant. Une autre chose que je voulais peut-être dire sur les personnages, il y a ce problème de devoir réintroduire des personnages. Il y en a, je pense, c'est pas si nécessaire. Tu vois, genre, si t'as pas vu la série, tu sais pas vraiment qui est Venek, mais c'est pas un problème, parce que tu vois, c'est un marchand véreux, tu n'as pas besoin d'avoir plus que ça. C'est un peu intéressant si t'as vu les trucs précédents, parce que tu sais qu'il a déjà ce rôle de passeur. Anna, on doit la réintroduire pour ce qu'on dit. En fait, oui, on va faire la storyline Mordred, vous inquiétez pas. Donc, on doit rappeler qu'elle est dans le film. Donc, tu as la storyline des trois brigands qui vont la voir, qui apporte pas grand-chose non plus, mais qui est peut-être divertissante. Enfin, elle apporte quand même des scènes sympas en soi. Mais c'est vrai que, basiquement, allez voir en Orcanie, ils vont voir en Orcanie. En fait, ils sont pas là, mais votre sœur, elle est là, puis elle est énervée. Enfin, elle vous détestait déjà, donc ça a pas apporté grand-chose. Mais on a rappelé son existence.
Bah, on pourrait aussi se dire que c'est un peu le truc qui a provoqué Anna à vraiment se décider à aller contre Arthur, ce qui serait un peu le côté ironique.
Je pense que c'est l'idée, mais c'est un peu... On savait déjà qu'elle...
On est désolé, hein, si on vous sent, parce qu'on sait qu'on spoil un peu pas mal le film, en fait. On a voulu faire un truc sans spoiler, mais...
Bon, après, si vous écoutez notre disons, ça vous dira pas grand-chose non plus par rapport à... Enfin... puis un autre point, c'est justement dans les personnages, c'est par exemple... Il y a un problème de caractérisation des personnages. Bon, il y a plein de personnages, je me rappelle pas forcément leur nom, etc., mais c'est pas toujours un problème. Mais par exemple, t'as Gareth, le fils de Lot, qui est réintroduit avec une scène un peu marrante. Enfin, c'est ce qu'on avait déjà eu dans le premier film, c'est qu'il peut... lancer des sortilèges comme le sortilège de foudre de son père, et du coup il y a une scène assez marrante à la table ronde où il dit non mais j'ai renoncé à mon père, bah pourquoi tu continues à utiliser sa magie, puis il foudroie un mec. Enfin, j'ai trouvé que c'était assez marrant parce que c'était un peu comique, ça présentait un peu de conflit, c'était rapide donc ça durait pas 1000 ans non plus, et en même temps ça me rappelait ah oui c'est lui ce personnage là, donc c'était bien. Sauf qu'après il passe tout le film dans un groupe où ça a pas la moindre importance, il utilise même pas ce sort dans le reste du film pour l'instant. Peut-être que ça aura de l'importance dans la deuxième partie, mais c'est assez frustrant parce que c'est une scène sympa pour me rappeler voilà quel est ce personnage, et en même temps entre lui et Yagou dans le groupe ils ont la même, enfin ils sont interchangeables quoi, ils font rien qui soit distinctif de ce côté là pour moi. Et donc c'est un peu aussi le problème d'avoir que l'acte 1 et demi, c'est que ma critique serait été aussi que contrairement au premier film, il n'y a pas tant d'éléments unifiants. Mais c'est parce que Astier, en fait, il aime bien faire un peu il aime bien avoir un gimmick, et puis ce gimmick, il le rappelle à la fin, et puis ça conclut, ça boucle un peu l'histoire. Typiquement, bah, dans le premier film, il y avait son truc sur la guerre, c'est de la musique. T'avais dans le flashback romain, on voyait son drill sergeant de l'époque qui disait oh, la guerre c'est de la musique, et ensuite il se servait de ça pour faire de la musique pour coordonner les Burgondes pendant l'attaque de Kaamelott. Donc il y avait un petit truc qui était ramené pareil dans la saison 6. Tu as le truc de justement le drill sergent avec son gimmick de qui est le pire des soldats machin, et puis il reprenait ça à la fin pour faire un gimmick avec tous les Bretons qui levaient la main. Puis donc là, on avait dans le premier film un peu la même chose, de reprendre un truc de Drill Sergent, mais le mettre au service de, d'une cause meilleure. Et dans ce film-là, je vois pas trop ce que ça va être. Tu vois, je suis peut-être un peu... peut-être que je vois pas et qu'il va me surprendre, et j'espère, mais j'ai un peu l'impression que nous n'aurons pas cet élément unificateur sympathique là-dedans. Quoique, peut-être, nous serons surpris. Se pose la question, est-ce que c'est de notre faute ? Je disais, j'ai dit plusieurs fois que si les films Kaamelott étaient mauvais parce qu'il y avait trop de références arthuriennes, c'était de notre faute. Je crois pas que ce soit tout à fait le cas. Il y a un peu... Il y a deux, trois éléments qui laissent penser qu'Astier a un peu révisé ses classiques arthuriens, notamment le personnage du scribe à la table ronde, qui dit à un moment... Enfin, j'ai eu des flashbacks de douleur quand il a fait... Quand ils disent « Bon, on va aller chercher Yvan », puis il dit « Ah ouais, ouais, la quête d'un compagnon perdu, c'est un classique ». J'ai juste tous les flashbacks de la captivité, des 8 ans de captivité de Lancelot, des chevaliers qui sont faits prisonniers, puis donc il y a leurs potes qui viennent les chercher, qui se font tous faire prisonniers, donc il faut de nouveau aller les chercher après. Là, je suis en train de relire, là, je suis en train de traduire « La folie Lancelot ». Pareil, il y a des jolis moments, mais il y a aussi beaucoup de moments où, en fait, c'est un texte qui a basiquement été écrit pour faire, enfin, pour combler le temps, peut-être entre la quête du Graal et puis la fin de la suite du Merlin. Donc c'est un peu... Il y a tout le monde qui se fait faire prisonnier et retenir pendant 3-4 ans à différents endroits. Et donc ça, je me suis demandé un peu. Mais globalement, ce qui est plus marquant peut-être, c'est, je pense, le fait de ramener des éléments un peu plus high fantasy et un peu... un peu Donjons et Dragons, quoi. Tu as cette histoire de magie noire et de nécromancie. Tu as le fait d'avoir des gens qui vont essayer d'aller sauver un dragon. Tu as un côté un peu plus aussi, qui là, par contre, moi, me plaît, de Astier qui... Enfin, il a toujours aimé aller un peu dans cette direction-là, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, Kaamelott, c'est un monde très mondain. Et de l'autre côté, on est dans un souterrain, il y a des gobelins. Enfin, t'as un monde très Donjons et Dragons aussi, quoi. Ce qui n'est pas si étonnant pour la fiction Donjons et Dragons, quoi, si on pense à comment elle est adaptée maintenant entre Baldur's Gate ou le film Honor Among Thieves, etc. Donc c'est pas, il est pas si assez. Il parle beaucoup du fait qu'il aime bien avoir ces personnages qui parlent normalement et qui disent des gros mots, etc. Mais ironiquement, vu que la fantasy globale l'a un peu rattrapé aussi, et du coup ça marche assez bien, et peut-être que ça va très bien marcher dans la deuxième partie. On verra.
Ouais, si ça se trouve, on sait pas. Hein. On aura l'air malin quand, en fait, ça formera une symphonie parfaite, hein, une façon. Mais reste quand même que moi, je suis un peu quand même déçu par la façon abrupte dont ça se termine, effectivement, et puis les longueurs, quoi. C'est surtout ça. C'est vraiment le fait que. Alors, avoir des longueurs, pourquoi pas, si ça t'amène à quelque chose de satisfaisant, mais la combinaison des deux, quoi. Si ça s'était achevé sur un moment particulièrement tendu, même si ça avait été coupé, tu vois, à la fin de la. Avec la fin de la. De la s'ils avaient déplacé peut-être tout le bout sur Lancelot à la fin, on va en parler après, hein. Mais si ça s'était terminé là-dessus, un point de vue, vraiment un point sombre, tu vois. Même s'il y a eu le truc avec Arthur qui est en train de se noyer avant, mais si ça se terminait sur un truc un peu conclusif, tu vois. Mais là, t'as vraiment l'impression que ça se termine en fait en pleine. Désolé, j'ai spoilé.
On sait pas si Arthur se noie d'ailleurs. Le montage est pas clair, donc c'est pas tout à fait un spoiler. Enfin,
qu'il se noie ou qu'il est un naufrage, disons. Voilà.
Mais, partie 2, Arthur est mort. Bon.
Voilà. Disons, il y a cette fin là, que ça serait terminé sur un truc un peu conclusif, mais là il y a eu déjà une espèce de demi-résolution avant, donc en fait t'es dans une espèce de truc accéléré sur la fin, et du coup les longueurs sont plus coupables. Et d'un autre côté, si ça avait été tambour battant jusque là, j'aurais été peut-être un peu moins déçu, parce que tu sens le côté propulsif, t'as envie d'aller voir le premier, ça te met un cliffhanger. Pourquoi pas ? Même si il n'y a pas de résolution, au moins la tension est vraiment bien montée. Alors que là, il y a vraiment un peu trop de péripéties avant pour que ce soit équilibré, quoi, à mon sens.
Pour moi, et puis aussi, il manque pas tant. C'est pas tant qu'il manque de l'action, mais je pense qu'il manque quand même pas mal d'émotions, en fait. C'est que tu as des moments un peu lourds au début, justement, Guenièvre qui est frappé par les dieux. La scène de début, en fait, où les gens parlent des tendances suicidaires d'Arthur, tu as des moments un peu plus, on va dire, émotionnels. Mais t'en as pas assez dans le fil du truc. Moi, j'aurais voulu plus de moments, justement, je trouve... pour moi, les bons exemples, c'était le dialogue. Pour moi, Lancelot et la Dame du Lac qui discutent, c'est vraiment un des très bons moments de... Quand il s'est pris une flèche, c'est un des très bons moments de Kaamelott, parce que ça te révèle des morceaux d'histoire que t'avais pas avant, ça élargit l'univers, et il y a aussi un véritable conflit, une véritable émotion entre les deux personnages. Et là, tu as quand même beaucoup d'occasions d'avoir ça, quoi. Même juste, fais un truc un peu cucul à praline... Fais-moi une scène où Bort et Lionel essayent de discuter avec Lancelot et essayent de le... Enfin, tu vois, genre juste un truc à la con, un peu où tu me dis, voilà, un truc auquel avoir une émotion, il y en a un peu, pas tant que ça. Moi, ça m'aurait plus manqué, quoi.
Clairement.
Dans les petites notes, on va peut-être juste mentionner le contenu de l'histoire. Bon, on l'a déjà beaucoup fait. Je trouve que ça ajoute quand même de l'eau au moulin de ma théorie scout unifié de Kaamelott. En fait, entre la table en ficelle, la table ronde en ficelle, qui rappelle tant de tables scout, le fait que ce soit tous les enfants d'Astier qui viennent jouer dans le film, c'est un côté théâtral de la troupe des scouts et guides qui fait son spectacle pour Noël, qui pour moi n'est pas une critique négative, mais ça rejoint un peu les trucs sur les totems, etc. Et quelques minuties dans les décors, lors de la scène de la table ronde, j'ai bien aimé, à côté de Lionel, tu as un blason qui est en fait le blason d'Hector Desmar, donc c'est pas tout à fait celui de Lionel, qui est aussi censé être une version de celui de Lancelot avec les trois bandes rouges, mais là avec le soleil, normalement c'est Hector. C'est assez marrant que l'ogre ait adopté l'écriture Ogham. Alors c'est l'écriture des dieux, mais moi il me semble qu'on le voit aussi dans des... Il y a des parchemins et des trucs, alors j'ai pas revu le film donc je pourrais pas vous dire, mais il me semble qu'il y a des parchemins et des trucs où on voit qu'ils écrivent en écriture Ogham, ce qui est un peu marrant parce que c'est très irlandais. On l'avait vu dans le premier film.
C'est pas vraiment une écriture pour écrire normalement les Ogham, c'est un truc, c'est un genre de rune que tu graves sur des machins quoi.
Il me semble qu'il y a peut-être des manuscrits où ils l'utilisent aussi, puis que c'est comme ça qu'on sait la décoder, mais c'est vrai que normalement c'est plus fait pour graver. Parce que c'est pas un système très pratique. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que dans le premier film, il y avait un moment où on voyait la carte de l'ogre un peu, carte un peu primitive, quoi. Et il y avait les différents pays qui étaient inscrits en rune Ogham déjà à l'époque. Et les fans s'en étaient servis pour décoder. Et puis en fait, un truc qui est marrant, c'est que Astier a diffusé l'image de l'inscription laissée par la foudre dans les images de promotion du film, et du coup il y a des fans qui l'avaient déjà décodé aussi. En fait, elle est, pour votre information, elle est en fait, c'est à peu près ce qui est décrit, qui est décodé par contre, mais en latin, écrit en Ogham. Meleagan, j'étais un peu triste qu'il soit pas autant mis à profit que la saison 5. Pour moi, c'était vraiment un des personnages les plus intéressants et une des meilleures additions de Astier, où il a pris un personnage et il en a fait un truc qui avait absolument rien à voir. Ça a absolument rien à voir avec le Meleagan de la légende arthurienne, mais pour moi, c'est un truc très très bien qu'il a, est un peu tremblotant, et puis ben il passe son, enfin basiquement il discute avec Lancelot quoi.
On a un peu de mal à voir où il veut en venir parce que sa relation avec, enfin on va en parler peut-être un peu plus tard dans le résumé, ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu curieux quoi, la façon dont il est, la réaction qu'il a à ce que fait Lancelot en fait.
Il y a le démon Sabernock qu'on voit dans le film, pardon pour le spoiler, il fait un peu Thanos Dark Souls, c'est son modèle, c'est un peu le modèle 3D, on a repris le modèle de Thanos, on a rajouté un peu d'étincelles
et des cheveux
à la Dark Souls 3, et puis voilà, ça marche pas trop, enfin ouais, les effets spéciaux, j'ai trouvé que c'était pas trop mal utilisé, j'avais un peu peur parce que dans les images de promotion du film, tu avais des scènes très effets spéciaux, cette espèce de colosse de tourbillon. Ah, il y a une référence aussi, c'est que Lancelot, à un moment, se fait attaquer par une charrette, ce qui est évidemment une référence à Lancelot le Chevalier. Dans le film, je suis là, ah, c'est une charrette.
En fait, le truc de Lancelot, c'est que c'est un des trucs les plus intéressants du film, et je trouve que le film en a presque un peu honte, en fait. Pas un peu honte, mais il n'est pas assez mis en valeur narrativement dans le film, en fait. C'est un peu expédié. Par moment, alors que ça aurait mérité si on voulait en faire un antagoniste. Là, il est un peu trop sur un... Autant il était très bien dans le premier volet, en espèce de Dark Vador, en mi-méchant, mi-Doctor Who, mi-Star Wars.
Il a accepté son destin d'archétype jungien, il représente le dragon renfermé des pouvoirs de l'ego.
C'est très bizarre, parce que du coup, il était bien en valeur. Et là, alors qu'il y a des tas de trucs qui sont de genre la sorcellerie et tout ça, c'est un peu, narrativement, il prend pas assez de place, en fait. Je trouve ça qui est un peu dommage. J'ai pas envie de dire qu'il fait honte au film, hein, mais...
Bon, je dois qualifier, c'est que ce que je disais, qu'il manque un peu d'émotion. Je trouve que justement, ce qu'il essayait de faire quand on introduit Lancelot, tu vois, alors c'est un peu la storyline qu'il avait déjà avec son rapport à son père, mais justement là je trouve que c'était dans la bonne direction de introduire un peu d'émotion quoi.
Effectivement, mais c'est vrai que c'est aussi un peu le fait de faire revenir Meleagan là-dedans et complexifie un peu la chose, je trouve. Ça aurait été intéressant de voir un truc complètement nouveau en fait pour Lancelot, même si j'aime beaucoup Karl Osbrand qui joue Meleagan, et il est vraiment très c'est sympa de le revoir, mais c'est vrai que c'est pas exactement ce à quoi on s'attendait en fait. Je pense comme direction. Ouais.
Alors, on peut peut-être commencer. Ben là, on va vous faire le résumé vite fait de ce qui se passe dedans et puis commenter un peu plus le fond. On l'a déjà beaucoup fait, en fait. Donc voilà, mais on va le faire de façon désentrelacée. On ne va pas vous faire tous les changements de scène. Donc, vous n'aurez pas vraiment la même expérience. Mais c'est aussi que quand on met à plat ce qui se passe dans chaque storyline, en fait, c'est ça qui est un peu frustrant à la fin. C'est quand tu récapitules sur tes doigts ce qui s'est passé, tu te dis, ben, en fait, ils n'ont pas fait grand-chose, quoi. Chaque groupe de personnages a basiquement une scène... une scène d'action, quoi. Mais ceci dit, les longueurs, c'est aussi des longueurs qui développent l'ambiance, et puis c'est pas forcément. Moi, je trouve que c'est aussi.
Non, ça peut effectivement.
C'est normal que quand t'es au cinéma, que tu passes du temps à faire des jolies scènes nordiques, des jolies scènes de souterrain.
Mais c'est vrai que c'est plus dans les redites ou les éléments qui apportent pas grand chose dans les scènes elles-mêmes. Le fait d'avoir des longues scènes, des longs paysages, des longs trucs de voyage, ça me choque pas. Mais donc effectivement, on peut revenir effectivement au début à notre aventure en elle-même, et ça s'ouvre effectivement de façon pas vraiment chorale, puisque ça s'ouvre avec juste un on peut peut-être commencer, et ça s'ouvre avec en fait ce personnage de Cole, le fameux, qui est, alors dont le nom, au début je me suis demandé est-ce que c'est un genre ça fait un peu vaguement non irlandais ou un truc, mais je pense que c'est vraiment juste pour faire que Elias arrête pas de dire le fameux con, le con quoi,
ouais,
c'est juste un jeu de mots débile.
Oui.
Qui va se promener dans les ruines de Camelot, parce que Camelot a été détruite à la fin du premier volet, et qui va justement y découvrir une chose un peu bizarre. Il y a des oiseaux qui évitent de survoler une partie du château. Donc il y a quelque chose de pas très chouette qui se trame dans les ruines de Camelot. Et donc on introduit ce personnage, on nous présentera un peu après qui il est, mais au début je me suis dit, est-ce que c'est un nouveau méchant? Il a un peu une tête d'être un nouveau méchant, je suis pas sûr qu'on aille dans cette direction-là, mais pourquoi pas. Je ne serais pas surpris qu'on voit quelqu'un d'un peu différent, en tout cas, que ce n'est pas un peu plus que ce qu'on pensait.
Oui, c'est une des, on va parler de sa storyline, mais à mon avis, c'est un des débouchés narratifs évidents, c'est qu'en fait, il voudrait en fait usurper le pouvoir qui sont censés aller détruire, ce serait une possibilité. Il y a plusieurs de ses répliques qui vont dans cette direction, à peu près.
Pendant ce temps, donc Arthur qui est en Carmélie, parce que du coup il loge chez son beau-père, il se réveille d'un rêve étrange dans lequel il semble se trouver sous la. Alors bon, effectivement, le fait qu'on se termine, le film se termine sur le début, enfin c'est assez. Je veux pas dire que ça n'a pas été amené, hein, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait un truc du genre, mais c'est vrai que c'est pas pour autant que c'est pas parce que tu mets un callback et un call forward en fait au début que c'est nécessairement. Narrativement satisfaisant. Et il dégaine Excalibur qui a toujours les éclairs de vengeance noire qui étaient autour quand il l'avait saisi après pour aller se battre contre Lancelot. Et Guenièvre le voit se recoucher et lui demande « Est-ce que vous pensez que ça va se résoudre tout seul ?» Sous-entendu, bah, évidemment, il n'est pas exactement en faveur avec les dieux parce qu'il n'a pas en fait, achevé leur demande qui était de dégouiller, dessouder Lancelot et de le battre et d'exécuter leur vengeance en fait.
Ouais, puis c'est un peu, je pense que c'est un des points faibles au niveau moral du film, c'est-à-dire que le précédent film essayait de dire en fait Arthur a pas envie de le tuer, absolument pas, ok, mais enfin je sais pas, il a clairement pas de remords à envoyer des gens en exil ou à les maintenir en prison. Mais, ouais, tuer Lancelot...
Mais la peine de mort, ça a toujours été un des trucs qui a été présenté comme un truc qu'il faisait pas, en fait.
Oui, c'est vrai,
et
mais
c'est lié,
un
je
peu...
Pense, et c'est expliqué dans la saison 6 par son dégoût avec ce qui est arrivé à ses amis romains.
Ouais.
Enfin, en tout cas, c'est justifié assez évidemment par là. Maintenant,
c'était pour moi un des points faibles de la saison 6, enfin, un des points faibles du premier film, c'était de justement remarcher dans les pas de ça, et ce qui me laissait craindre justement que les films arriveraient à rien faire de nouveau parce qu'ils devraient juste refaire ce qui avait été fait dans la série. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire autre chose, ils auraient pu faire, je sais pas, Arthur a cherché Lancelot, il le trouve pas. Voilà, j'arrive pas à tuer Lancelot parce qu'on le trouve pas. Là, il est juste dans les ruines du roi banc. T'es là, bon, c'est pas l'endroit
le plus
planqué.
C'est pas comme
si ceux
qui cherchaient le trouvaient pas facilement, hein, là, en l'occurrence.
C'est
il
ça.
Aurait pu être plus caché.
Et tu te dis pourquoi est-ce que ou quelqu'un d'autre pourrait. Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est pas le point de départ le plus intéressant.
C'est un truc qu'on avait déjà un peu navigué dans la série. Hein, le fait qu'Arthur soit un souverain moderne, ça fait partie un peu de l'humour de la série aussi et du ton de la série, parce que Arthur, c'est quelqu'un qui veut toujours aller chercher, donner de la bonne volonté, aller, il va être, il est généreux avec tout le monde. Ça fait aussi le sel narratif de la série, parce qu'il a ce côté anachronique au milieu de tout le monde qui vit d'une façon, une espèce de caricature brutale du Moyen-Âge, ou du bas empire romain, suivant l'époque. Mais quelque part, effectivement, c'est pas très satisfaisant de revenir sur ces mêmes dispositions-là. Après, pourquoi pas, hein, comme si tu veux maintenir Lancelot comme antagoniste potentiel, si tu veux introduire du conflit. Mais je suis pas effectivement sûr que ce soit la meilleure façon dont le fait que ça force un peu cette espèce de refus de l'appel pour Arthur, plutôt que d'avoir une confrontation, en fait. C'est ça que je aurais trouvé plus intéressant.
Oui, puis surtout qu'il va
replanter... messager des dieux, qu'il y ait des, ouais. des... Alors qu'en fait, ce problème, c'est que c'est toujours cette espèce de réaction, de dialogue qui a vraiment un seul sens, en fait. T'as des signes des dieux, Arthur fait rien, il arrive deux, trois bricoles, mais c'est toujours un peu ce côté passif, quoi. Qui est un peu dommage. C'est pas Arthur, c'est pas vraiment un rebelle contre... Tu vois, si tu voulais avoir un Arthur rebelle contre les dieux et contre la destinée, ça aurait été plus intéressant d'avoir vraiment des justifications, d'avoir des avatars pour incarner ça. Là, le problème, c'est que c'est pas très présent. T'as Fraganan, donc la sœur de Léodagan, qui est introduite à ce moment-là, qui représente un peu à la fois la voix des dieux, parce qu'elle peut faire de la divination, mais en même temps, elle justifie... Elle explique aussi pourquoi il a bien raison de se terrer dans sa... De déprimer comme ça
C'est aussi Louis Plage, c'est-à-dire que cette déprime, elle s'étend pas seulement... Ok, il veut pas tuer Lancelot, il va aller replanter l'épée. Bon, ça, on l'a déjà vu, on pourrait faire
autre chose. Mais c'est ça, okay. Le truc, c'est quoi exactement le fait que de ne pas tuer Lancelot, ça, c'est aussi un frein à tout le reste pour lui, en fait.
Mais ça s'étend aussi à le début du film, en fait, c'est qu'on apprend que Léodagan et Selly ont en fait convoqué la table ronde et que la jeune génération, ils sont pas... ils se disent, c'est horrible, on va jamais être prêt pour la table ronde parce que le seul bâtiment qu'on a, c'est une écurie pourrie, etc. Puis... Le truc, c'est qu'on a Arthur qui est là, ah ouais, non mais c'est bien, ça c'est super, faites-le, ça met les choses en marche, etc. Donc il est content pour que ça ait été fait malgré lui. Et en même temps, il veut pas y participer. Donc t'as ce truc de... Alors que le dernier film se finissait quand même sur Hengist qui disait, j'ai bien envie de faire partie de la table ronde. Donc t'as ce truc aussi de... Il faut qu'il refuse pour qu'après il vienne faire son... Donc la table ronde se réunit et il vient faire son discours super pour la beauté de l'aventure, qui est un des moments... tentative d'émotion, mais qui est peut-être un peu trop isolée, puis qui du coup est un peu moins naturelle que les monologues des saisons 5 ou 6 qui sont plus dans un environnement favorable. Et ça, c'est pour moi un peu plus difficile à expliquer, tu vois, le côté que ah non, mais j'ai même pas envie de venir, alors que il aurait pu dire, ah ouais, c'est super, non mais je vous filerai un coup. Enfin, je sais pas, tu vois, ça aurait pu être...
Mais en fait, j'ai l'impression qu'une partie du problème, c'est que les thèmes qui intéressent Astier sur Arthur, c'est vraiment ce refus de l'aventure, ce fait qu'il reste chez lui, qu'il ne parte pas. Et voire même son instinct suicidaire. Et c'est un truc qui était évoqué à la fin du premier film. Hein. Il voulait rester dans la... Plutôt que de tuer Lancelot, en fait, il aurait préféré que Lancelot s'enfuit puis qu'il reste, lui, mourir s'il n'y avait pas la fille de Caradoc qu'il avait... les enfants de Caradoc qu'il avait... la fille de Caradoc qui était venue le chercher avec Petroc. Enfin, il y passait. Et du coup, c'est un truc d'ailleurs que lui reproche Maclou, le bras droit de Léodagan. Il lui dit, mais vous avez donné des faux espoirs, en fait, alors que vous voulez juste rester dans... Et c'est pas forcément un thème inintéressant et qui pourrait être exploré. Mais le problème, c'est que Astier sabote ça un peu parce que derrière, en fait, il y a toute la fin du premier film. Après ça, c'est comme si c'était censé être un moment, un wake-up call, en fait. Alors qu'en fait, Astier a l'impression que... Non, c'est juste Arthur, c'est comme ça.
C'est peut-être un élément de réalisme aussi, parce que c'est vrai que t'as des gens... pourquoi les gens sont... dans la vraie vie, les gens, ils sont déprimés, ils sont suicidaires. Oh là là, il était déjà déprimé et suicidaire avant, puis là, il l'est encore. Mais franchement, il pourrait varier un petit peu. C'est un élément de réalisme peut-être, mais c'est vrai que là...
La façon dont ça se manifeste n'est pas cohérente, en fait. C'est plutôt ça. Enfin, tu me diras, ça peut être pas cohérent non plus, mais...
Dans le film précédent, c'était « il est suicidaire, mais... » Il se soucie quand même des autres. Et puis du coup, typiquement, t'as la scène avec le duc d'Aquitaine qui l'emmène vers le nord, puis qui lui dit, mais Lancelot, il fait tuer des enfants. Puis t'as ce moment où Arthur, il se dit, bon, quand même, il faut que j'entende... Enfin, t'as ce truc de... Ou quand Caradoc l'appelle à l'aide dans ce film, qu'il est tiré de sa torpeur parce qu'il n'arrive pas à ne pas se soucier des autres. Ou pareil, quand la fille de Caradoc vient le chercher. Ok, mais j'aimerais vous... Enfin...
Le truc, c'est que là...
J'aimerais voir ça autrement, ou que ça se développe, ou que j'ai une variante, je sais pas.
Parce que là, effectivement, on a juste l'impression de voir le début de la saison 5, en fait.
Ou alors peut-être qu'il est déprimé et il envoie chier Léodagan et tout le monde, etc. Mais que par contre, il est très enthousiaste pour le projet de la table ronde. Tu vois, ça aurait pu être... il est déprimé sur un truc, pas sur l'autre. Je sais pas. Je trouve que ça, comme tu dis, ça ralentit beaucoup le début, au point que l'entracte que le premier acte du deuxième volet, première partie dans la version entracte, n'arrive que à cette réunion de la table ronde, quoi.
Ouais.
Qui pour moi est une scène assez sympathique. Hein. Pour moi, d'ailleurs, elle est assez.
Mais avant que la table ronde arrive, il y a quand même quelques péripéties. Donc, notamment ce refus perpétuel d'Arthur de répondre à la volonté des dieux, se manifeste par littéralement un éclair. La chambre est foudre. Il y a le message des dieux qui apparaissent sur le mur après un éclair qui tombe dessus. Guenièvre est sérieusement blessée et puis elle devient un peu sourde pendant, enfin ça a l'air temporaire. Et le message des dieux dit en gros que, enfin on va expliquer le message des dieux après, mais en gros il dit que l'assassin du roi, et c'est pas l'assassin qui aide le roi, c'est l'assassin qui va tuer le roi,
ouais.
Viendra de Carmélide.
Ah non, c'est du possessif.
Ce que je trouve un peu bizarre, parce que si le message des dieux c'est censé être aussi un avertissement contre lui pour lui dire hey,
pourquoi ils le préviennent,
bouge-toi parce que sinon tu vas te... Alors peut-être c'est pour le motiver, mais pourquoi alors du coup que ça blesse Guenièvre en même temps? Est-ce que c'est un avertissement parce qu'il a pas renforcé? C'est un peu... Ouais. Tu disais que c'est pas mal qu'il y ait de l'ambiguïté sur ce que veulent les dieux, mais il y a ambiguïté et je trouve avoir mélangé un peu trop de trucs. Là, la prophétie sinistre aurait pu venir d'autres biais et être tout aussi efficace, alors que là, on a un peu l'impression que c'est... Tu vois, on cumule un peu les éléments pour installer cette espèce de suspicion là-dedans. Bon, alors peut-être que la foudre vient pas des dieux, en fait, qu'on va découvrir qu'il y a des différents conflits au sein des divinités, mais c'est un peu bizarre quand même, la façon dont c'est...
Oui, c'est vrai que pourquoi lui donner un avertissement si il est perdu, quoi. Mais après, c'est assez cohérent avec... Pas pour faire la défense d'Arthur, mais
ça explique la suite, hein, mais...
C'est assez proche des prophéties qu'on voit dans les romans arthuriens, tu vois, genre cette prophétie de Arthur quand il est un peu abandonné parce que un ermite qui vient le réprimander, puis ils font une espèce de rituel et il voit, c'est quoi, une grande épée rouge qui biffe des chiffres et puis il apprend que son royaume va chuter. C'est un peu un truc typique arthurien d'être à la fois, t'apprends que tu es en défaveur et en même temps on t'annonce ta déchéance, tu vois.
Ouais,
c'est,
mais d'un côté,
c'est pas si rare.
Je sais pas, il y a un côté un peu bizarre. C'est pas bizarre, mais le fait que ce soit présenté vraiment comme un avertissement des dieux et un truc qu'on doit comprendre, ouais. Et en même temps, c'est un éclair qui punit Arthur pour le fait de pas avoir passé à l'action. Je sais pas, je pense que ça aurait peut-être été intéressant de dissocier les deux. D'autant que la réaction d'Arthur, évidemment, elle est tout de suite... il se braque, en fait. Il dit non, mais j'en ai rien à foutre si vous faites ça. Moi, je vais mettre mon épée dans le rocher pour bien vous faire comprendre que ça marchera pas, quoi. À côté, on découvre aussi que Caradoc, qui est donc seul parce que Perceval est parti à l'aventure sans lui, est de nouveau dans la taverne avec le tavernier et leur précédent clan, avec toujours les mêmes spéléologues amateurs. Et en fait, et Merlin... et vu que ça marche bien, le tavernier essaie de le dissuader de se rendre à la nouvelle table ronde, donc il cache les lettres qu'il reçoit, donc l'appel de Léodagan. Et c'est là qu'arrive Conle qui cherche Merlin, et du coup il va embarquer Merlin pour aller combattre les forces du mal. Conle, je sais pas, toi tu le vois comme plutôt un méchant potentiel. Moi je me demande si on va pas découvrir qu'en fait c'est quelqu'un de bénéfique qui est en fait là pour un peu bouger, pour agir différemment des autres dieux, je sais pas.
Moi je pense qu'il y a un petit suspense parce qu'il mentionne... Moi, je pense pas. Je pense que ça va évoluer dans une autre direction, mais il y a une possibilité.
Ils se rendent donc eux à Camelot. Alors à Camelot, déjà il y a Arthur qui croise sa tante et sa maman qui viennent lui offrir une fiole de fertilité ou un genre de potion de filtre d'amour très tristanien. Parce que traditionnellement, c'est pas exactement ce qui se passe avec la conception de Mordred, mais bon. Et du coup, Guenièvre explique là qu'effectivement, ils n'ont toujours pas de relation physique, même s'ils ont commencé à s'embrasser à la fin du premier film.
Surtout que la scène en langage hollywoodien, elle disait quand même que, en fait, je sais pas, moi je trouve que c'est un peu.
C'est un peu dommage, quoi.
C'est un des trucs qui évolue pas, alors que tu étais là, en langage de film, vous m'avez basiquement dit dans le film précédent que si, en fait, c'était parti, quoi. Enfin, ouais.
Bon, après, peut-être que c'est aussi de l'âge, hein. Ça fait quand même presque 20 ans qu'ils sont mariés, peut-être que, la ménopause arrive. Mais peut-être que de toute façon, ils pourraient pas, quoi. Mais c'est dommage que. En fait, ce soit complètement... On revient à des trucs de la saison 2, quoi, de Kaamelott. Saison 1-2 de Kaamelott, en fait. C'est ça qui est un peu dommage aussi. C'est sur place. Elle se fait aussi parce qu'on revient sur des thèmes un peu du genre. Et d'ailleurs, un peu plus tard, Guenièvre... Alors, je ne vais pas vous le dire dans l'ordre, mais Guenièvre demande à Tumet et Azilis, donc les jumelles du pêcheur. Je me dis, chouette, on va vous expliquer un peu leur rapport avec le pêcheur, qui était ce personnage un peu mystérieux quand même dans la saison 5, qui avait perdu son fils, qui était à moitié un fantôme. C'était pas très clair. Et puis là, non, en fait, c'est juste que c'est bien les jumelles du pêcheur, elles sont juste là. Et puis, Guenièvre les a ramenées pour essayer un peu de motiver, soit de motiver Arthur, soit de leur faire concevoir un héritier. Enfin, c'était pas très clair. Alors, peut-être que derrière, il y a toujours l'espèce de fait qu'Arthur, en fait, n'a jamais réalisé que quand la prophétesse lui avait dit qu'il était infécond dans la saison 5, c'était pas vrai. En fait, c'était Méléagant qui lui avait fait dire ça. Et donc, il croit qu'il est infécond de toute façon. Et que du coup, ça sert à rien d'essayer avec Guenièvre. Peut-être que c'est une des raisons là derrière. Mais c'est quand même du territoire qu'on a déjà quadrillé en long et en large depuis 20 ans, quoi. Donc c'est un peu dommage de rester là-dessus, quoi.
Moi, je pensais d'ailleurs que ce serait un des éléments de la, de la storyline Mordred, c'est qu'il couche avec Anna en se disant, bah, de toute façon, je suis un fécond, tu vois.
Oui.
Et que ce soit le twist.
Là-dessus, Kongl arrive avec Elias, à récupérer Elias, qui est toujours encarmé, enfin, qui est devenu l'enchanteur officiel de Lodegan et donc qui a récupéré Merlin chez le tavernier. Ils arrivent et expliquent qu'il y a un problème de magie noire à Camelot, qui est censé avoir été, disons, causé par Lancelot. Il a fait quelque chose de pas terrible, il a créé une source de magie noire. Et d'ailleurs, Kongl déchiffre le message des dieux, qui donc dit ce fameux message, l'assassin du roi viendra d'Orcanie. Ce qui pousse Arthur à interroger le jurisconsulte, cette scène avec Christian Clavier, qui effectivement fait très vieux Camelot, qui dit effectivement non, Loth et ses alliés sont bien en exil, ils sont partis loin, ils ne sont pas retournés en Carmélite, mais ça sème le doute chez Arthur qui va du coup aller prendre des mesures. Et pendant ça, on découvre aussi que Ban essaye de faire de la magie sur le cadavre d'une araignée. Ça n'a pas l'air de marcher. Mais il tombe ensuite sur une gigantesque araignée, donc il se cache dans la cour, donc peut-être qu'il a réussi à la réanimer. Il essaie d'aller se battre contre elle, mais en fait, elle disparaît. Et puis Méléagan arrive. Alors, est-ce que l'araignée, c'est Méléagan ? Il disait que parfois il se desséchait, il se cachait, puis il revenait à la vie. Alors, on l'avait vu revenir à la fin du premier volet. Donc
du premier volet.
Peut-être que c'est ça. En gros, Méléagan lui le moque toujours un petit peu. Ah, est-ce que vous arrivez à tuer la magie noire ? Lancelot dit non, j'ai tout laissé à Camelot, j'arrive pas à avancer, et donc il lui propose de le former à la magie noire, en gros. Mm. Et pendant ce temps, donc la dernière équipe qu'on rentre avant la table ronde, c'est qu'on on voit ce qui se passe à la ferme chez les paysans. Petrog, donc le fils de Ropars, le copain slash ennemi de Guetno, refuse de se joindre avec ses amis avec qui il faisait la quête parce que maintenant il a hérité en partie de la ferme. Son père est toujours vivant, mais c'est lui qui gère, et du coup maintenant il est devenu un paysan dans ses bottes qui refuse de partir à l'aventure. Je trouve, pour le coup, le personnage c'est super cohérent, c'est bien amené et tout ça. C'est un peu frustrant, comme tu disais, parce que on défait complètement ce qui était à la fin du premier volet pour faire un truc.
Ouais, moi c'est pas ce qui me gêne le plus, mais c'est symptomatique, quoi.
C'est symptomatique du problème. C'est que je pense qu'il y a une grosse, en fait, pour tout ce qu'ils disent sur le fait, ah oui, j'ai la saga, j'ai mes maisons dans sa tête, sur le moment, par moment, il fait des trucs souvent qui n'ont pas forcément de perspective nécessaire.
Moi je me demande à quel point c'est, par exemple, ça, si ça se trouve c'est juste l'acteur, il avait pas envie de, tu vois, si ça se trouve c'est juste l'acteur, il pouvait pas revenir pour faire
l'aventure dans le nord, donc il devait juste faire la scène. Ouais, peut-être.
Donc c'est aussi le problème, c'est que typiquement Franck Pithiot lui dit je suis pas dans le film. Bah après c'était Astier, justement, il a gardé apparemment son script top secret jusqu'au dernier moment. Voilà, si t'as des acteurs qui sont morts, t'as des acteurs qui sont
pas là.
Typiquement il y a, comment il s'appelle, non,
Checicario. Bah bon, en même temps, lui, il était déjà assez âgé dans le premier volet, donc on peut penser qu'il est décédé en tournant.
Mais ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas une panoplie de de personnages, elle se raréfie aussi avec le temps.
Mais en gros, donc les Yagou et Gareth, donc le fils de du roi Loth, ne convainc pas Petrok, mais son épouse, c'est Mégane ou Bébène. L'une des deux.
Je les confonds tout le temps.
Et qui va avec. Donc, ils partent à l'aventure, les quatre, pour se rendre à la table ronde. Il y a quand même une avancée avec Arthur, parce qu'il est quand même un peu frustré que les dieux s'en prennent à des gens qui l'aiment plutôt qu'à lui. Et donc, il dit quand même, j'ai quand même essayé de faire un effort, mais je veux quand même pas tuer Lancelot. Et ouais. C'est peut-être ce qui pousse un peu Arthur à participer à cette séance de table ronde qui arrive ici. Et en fait, à cette fameuse, voilà, c'est un peu le point central du film, cette grande séance de table ronde.
Ouais, moi j'ai bien aimé, c'était justement cette table ronde où en fait tout le monde doit amener un bout de bois qui vient de chez eux. Donc t'as des gens qui ont amené des bouts de bois pourris, y a Mégane et Maven qui prennent un bout de la clôture de chez elles en partant. Moi j'ai trouvé ça assez poétique et assez inspiré. Ce qui me gêne un peu sur le plan de la cohérence scénaristique, c'est que ça colle avec ce qu'Arthur avait dit dans le film précédent quand il voyait la table ronde de Yvain et compagnie, de Gouin et compagnie, c'est que en fait... est-ce que dans le film c'est Léodagan qui est censé avoir envoyé la convocation, alors est-ce que Léodagan se serait rappelé de la touche poétique de dire prenez un bout de bois, parce que ce sera très je suis pas entièrement convaincu que ça, oh, que ça colle, mais voilà, peut-être que le projet était déjà...
Je doute que c'est Léodagan qui l'a fait faire lui-même. Il a peut-être demandé au scribe, tu peux envoyer une convocation, puis le scribe il sait que il doit
que c'était le projet.
C'est Bébène, hein, donc l'épouse de Petrok, des deux.
Maven. Et puis voilà, donc moi j'ai bien aimé cette scène de la table ronde, on a des nouveaux personnages, des anciens, les gens se gueulent dessus, mais c'est d'une façon un peu marrante. Pour moi c'est un peu une des très bonnes scènes, tu as Alain Chabat qui est de retour, enfin Tu as pour moi un très bon moment, et puis justement Arthur qui vient faire son speech sur le fait que l'aventure, que n'importe quel enfant qui va à l'aventure est un roi, machin. Et puis justement tout le monde qui dit bon, bah, alors qui veut partir à l'aventure ? Puis t'as même Léo Dagan qui dit ah ouais, il m'a eu. Enfin, moi je sais pas, pour moi c'était une des bonnes scènes du film. Et à partir de là, les différents groupes, surtout de jeunes, vont devoir se trouver des quêtes à faire. Et c'est là qu'on voit vraiment le film, que le film devient vraiment une alternance entre de plus en plus de storylines qui, malheureusement pour moi, ne se croisent pas trop.
Sur ces points-là, là, pour le coup, bah, on a de nouveau une manifestation d'un acteur qui est décédé entre-temps, le roi d'Irlande, Ketchatar, qui était joué par Valentin Traversi, qui est décédé en 2017, donc même avant le même premier volet. Bah, on a sa fille à la place, qui s'appelle Sorka ou Sorcha d'Irlande, ou Sokra, je crois, je sais plus exactement comment il dit. Bref, elle est accusée de traîtrise parce que sans doute, soi-disant, c'était un traître, lui. Enfin, ça fait des petits moments de personnages comme ça. Elle a à peu près le même comportement que lui. Ça rappelle, on revoit le roi Hoël d'Armorik aussi, ouais. Bah, comme tu l'as dit, le duc d'Aquitaine. Franchement, je trouve que c'est une des meilleures intégrations à le duc et la duchesse d'Aquitaine. Pour moi, c'est vraiment deux des meilleures additions à Castille a fait à partir du moment où Kaamelott est devenu un peu plus mainstream. Alain Chabat est excellent. Ouais. Le duc d'Aquitaine, c'est une personnalité qui est complètement différente de tout le monde. Donc, comme tu dis, ça amène son propre truc. Sa relation avec son épouse, c'est aussi très, très drôle. Enfin, je trouve ça toujours. J'adore toujours le truc, quoi. Le côté un peu faux naïf, le côté sympa.
Bon enfant, comme ça. Ce que j'aime très bien, c'est le fait qu'il ramène toujours un peu toute l'antiquité tardive avec lui, tu sais. Et puis, oui. C'est ce que j'aime beaucoup dans les costumes, c'est qu'ils ont ce côté un peu de. Tu as l'impression d'être dans une société entre guillemets décadente, etc. Mais ça se manifeste justement par le fait que les gens multiplient des symboles de statut et des différentes choses, différents registres de beauté vestimentaire, donc des bijoux, des trucs. Et puis Alain Chabat, il a vraiment, lui, là, il arrive avec ses espèces d'esclaves et tout. Enfin, il a vraiment ce côté potentat post-romain corrompu qui est un petit bol pour se laver les mains et tout.
Ça marche toujours très bien parce qu'il amène aussi une énergie tout à fait différente. Donc c'est qui contraste assez bien avec le reste de la table ronde et des énervés, en fait. Pour le coup, les dialogues Kaamelott avec Alain Chabat, c'est un registre du naïf un peu différent de celui de Perceval ou de celui de... Et du coup, ça marche toujours bien, je trouve. C'est toujours bienvenu, ça change un peu du reste.
Et puis, pour la suite, on va vous faire un peu les storylines un peu, je pense, désentrelacées, parce que c'est un peu plus simple au niveau de la cohérence. Donc, on vous a déjà dit celle de cette quête d'Orcani, c'est que à la fois, Arthur se dit l'assassin du roi vient d'Orcani, et en plus, il doute de si Lot et compagnie ne sont pas revenus se planquer en Orcani. Donc, il envoie trois brigands qui étaient les types qu'il avait chopés quand il était esclave en Arabie.
Quarto, qui est Clovis Cornillac, donc l'espèce de marchand d'esclaves, qu'il avait pourchassé chez le teinturier, joué par Jean-Claude Simon d'ailleurs, dans le. Par notre fierté nationale,
oui.
au début du film, on pensait qu'il était. Je me suis demandé s'il était mort quand il lui envoie le scorpion dessus, mais en fait, visiblement non. Et l'autre, c'est Guillaume Gallienne qui joue Alzagar, le pirate un peu. Aussi, il a deux bonnes additions, je trouve. Franchement, deux personnages qui sont dans des registres un poil différents, mais qui marchent très bien.
Et puis, du coup, t'as la troisième addition qui est.
Il s'appelle Silas, je crois. C'est une espèce de joué par Ronan Bougaraba, qui est un espèce d'assassin un peu peureux. Mais qu'il est complètement bien.
Il parle un peu comme une Kaira, quoi. C'est un peu. Je disais, tout le monde est dans un registre différent. Alors peut-être qu'il fallait tenter celui-ci. Je trouve qu'il marche peut-être un peu moins bien. Peut-être que c'est un peu. J'ai l'impression qu'il va mettre une casquette à l'envers et puis dire Ziva. Wow. Ouais, enfin, dur de faire ça de manière qui n'ait pas l'air soit datée, soit un peu. Soit un peu douteux. Ouais. Et je trouve que ça marche pas si bien que ça. Mais.
Je trouve que le fait d'avoir une espèce de mercenaire un peu moins investi que les autres, sinon ils sont toujours très intenses, ça marche bien. Effectivement, la caractérisation un peu l'arabe de service, ça fait un peu bizarre, quoi, quand même.
Mais du coup, il rencontre seulement Anna, ses sœurs et le mari d'une des sœurs dans le château. Alors Anna et ses sœurs sont très sinistres et clairement un peu présentées comme des femmes un peu démoniaques. Les sœurs essayent de les tuer pendant la nuit.
Et c'est un peu vraiment, c'est vraiment l'ambiance début de Dracula, quoi. Hein, c'est limite si c'est pas des vampires. Je trouve, alors pour le coup, le passage d'Anouk Grimbert, j'imagine que c'est une question de disponibilité. Alors, elle apparaissait pas non plus tant que ça, les actrices se ressemblent un petit peu. Mais alors, en termes de, je ne pense pas que ce soit la faute de Virginie Le Doyen nécessairement, mais alors la caractérisation du personnage, pour moi, ça prend un énorme coup, quoi. Alors qu'elle était super intéressante dans la saison 5 et la saison 6, avec le côté un peu machiavélique, un peu calme, un peu à l'opposé de Lotte. Là, on a juste une caricature de sorcière. Je trouve que c'est vraiment...
Un peu suave et rauque, en fait. Et puis, elle avait ce côté très... qui, comme je suis assez d'accord, qui a complètement disparu, quoi.
Le côté un peu à la fois cynique, à la fois enragé et cynique, en fait. Ouais. C'est un genre de cynisme comme Lotte, mais beaucoup plus fâché. Et là, il y a juste le côté... je suis c'est une méchante. Il y a juste le côté... c'est très... ça serait jadis contre la société. En fait, c'est un peu le côté C.S. Lewis. Ça me fait penser un peu à la différence de caractérisation que tu as entre jadis dans le... Enfin, c'est du coup, c'est pour l'inverse. C'est un peu la sorcière blanche du lion. Ouais. La sorcière... Enfin, je sais plus comment c'est, le deuxième Narnia. Le premier Narnia, historiquement.
Ouais.
Où la sorcière est vraiment juste méchante. Et quand on explore un peu plus son personnage de jadis dans le Neveu du Magicien, alors elle reste méchante, mais elle est plus complexe quand même. Et là, c'est un peu l'inverse, du coup, parce que dans Le Neveu du Magicien, c'est avant, mais ça a été écrit après. Et là, elle était simplement plus intéressante avant, en fait. Là, on a juste l'impression d'avoir une méchante, fâchée. Il n'y a pas du tout son côté... je sais pas, je trouve ça dommage, quoi. Alors, peut-être que c'est juste une question de temps à disposition, peut-être qu'on en verra plus dans le deuxième volet,
qu'on trouvera un peu ce côté. Même dans la saison 6, il y avait quelque chose de plus intéressant, mais c'est aussi parce que je pense que normalement, c'est qu'on la voyait interagir directement avec Arthur, et là,
ou avec des scénarios, elle méchants. Peut pas. Là, ouais. Elle est juste... et c'est ça le truc, c'est peut-être ce manque de rapport, mais le fait que... le sous-entendu, c'est qu'en fait, elle se serait restée tranquille dans son château à martyriser son beau-frère... si, en fait, ils n'étaient pas venus la chercher. Et c'est un peu dommage, parce que la caractérisation d'Anna qui est intéressante, c'est quand elle est machiavélique ou qu'elle complote, qu'elle est comme ça un peu à attendre son heure. Là, le fait de... En fait, tu as l'impression qu'on est allé chatouiller Sauron, quoi, juste pour qu'il vienne
nous emmener. Puis je crois qu'on ne sait pas trop ce qu'elle faisait pendant le règne de Lancelot non plus. Du coup, ça crée vraiment ce truc de... On n'avait pas mis sa storyline dans le film précédent, mais là, on veut vous rappeler qu'elle existe.
Je sais pas, c'est un peu dommage parce que j'adorais le personnage d'Anna et le jeu d'Anna Grimbert, et là ça tombe un peu à plat, quoi, je trouve.
Et donc les sœurs, elles essayent de les tuer pendant la nuit, mais les brigands, ils sont un peu sur leur garde parce que c'est un peu leur...
Parce qu'eux, ils sont compétents, contrairement à la plupart des chevaliers de la table ronde.
Ils arrivent à s'en tirer et à se barrer avec le mari. Enfin, le mari d'une des sœurs leur file un coup de main, ce type martyrisé, castré complètement par ces méchantes femmes castratrices. Et il dit, je me barre avec vous. Et il y a juste, comment il s'appelle, Silas, ce nouveau bandit qui, je sais pas, il a attrapé des papiers au hasard. Et ça va peut-être jouer un rôle dans la suite de l'histoire. C'est qu'il a ramené plein de documents qui traînaient dans le château de Anna. Et malheureusement, elle sait qu'ils ont été envoyés par Arthur. Alors, ils l'ont révélé assez immédiatement. Et du coup, le conflit est lancé. Et Arthur a peut-être plus d'informations sur eux. C'est ce qu'on verra après.
Pendant ce temps, donc, Conle, donc ça fait plein de blagues avec Elias qui dit le fameux con, c'est très drôle. Ils partent les trois magiciens avec un des je sais plus comment il s'appelle, Ladri, je crois. Je pense que c'est une espèce de jeu de mots sur le mot pour perceuse ou creuseur en anglais. Ils vont faire de la spéléologie sous Camelot. C'est un moment assez classique. Ça rappelle les épisodes de la série où ils sont en train dans des tunnels, en train de chasser des scavens et je ne sais quoi. Donc pour le coup, ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et ils tombent sur un laboratoire de nécromanciens où ils ont une genre de matrice, une espèce de truc de liche, enfin une espèce de source de magie noire.
Est-ce que c'est une espèce de grosse poche amniotique pleine d'yeux, des yeux dedans et qui est suspendue au plafond.
Est-ce que ça serait un peu l'espèce de Galade
Est-ce qu'elle est complètement perdue? Moi, je pense que justement, avec tout le thème de l'enfantement, etc., le fait que ce soit une matrice, ça va être un espèce d'être humain maléfique artificiel qui va être usurpé soit par Anna, soit par Lancelot, qui va être notre Galade ou notre Mordred, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça va être ça. Et justement, qu'on le dit que c'est extrêmement... que c'est pratiquement fini et que ça vaut extrêmement cher et que ça a une immense valeur en termes de magie noire. Alors, il avait lancé le truc pour détruire, mais ça pourrait être, pour moi, une des storylines suivantes, c'est que Conle, en fait, aimerait l'usurper. Il commence à détruire le laboratoire en balançant des produits toxiques partout. Merlin les avait téléportés avec une sphère de téléportation derrière la grille, mais en fait, il n'a pas de deuxième sphère de téléportation pour sortir. Et du coup, ils sont coincés dans les vapeurs toxiques. Et en fait, quand le film se finit, Conle balance une boule de feu, je crois, vers le haut pour faire une espèce de cheminée d'aération pour percer un trou dans la roche. Et c'est là que ça se finit, en fait. On est vraiment.
Est-ce qu'on est censé y voir? Parce que Kon est censé être un druide, hein. Donc, ouais. Il nous a dit d'ailleurs qu'il était. Il se présente à Arthur en disant: ah, votre tranquillité. Puis Arthur interprète ça comme une espèce de salut. Je sais pas si c'est vraiment un truc romain, mais enfin, comme ouais. pour lui dire: ah, vous avez bossé à Rome, vous. Et puis il lui dit qu'ils ont servi le même César. Mm-hmm. Sachant que donc, le César joué par Pierre Mondi, je pense, dans la saison 6, qui avait interagi avec Méléagant, qui était un peu la réponse, ce qui est à la fois le dieu des morts, mais sous-entendu le dieu des suicidés, dans la saison 5-6, parce que le César de Pierre Mondi se suicide à la fin du livre 6. Et il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans, des espèces de d'acquaintance magique, je sais pas. Est-ce que c'est une autre forme de Méléagant? Est-ce que c'est un autre signe que le César, parce que c'est lui qui a aussi donné la bague de protection contre les épées à Arthur, hein, l'espèce de bague magique qu'il a qui permet de faire un bouclier magique.
Ouais, qui trafiquait dans la magie. Non, je sais
donc,
pas.
Peut-être
je pense
qu'on va nous révéler des trucs intéressants là-dedans, mais en tout cas, effectivement, il est un peu sinistre, il a ce côté un peu. Je sais pas, il y a plusieurs twists potentiels évidemment, mais l'idée que ce soit un méchant, pourquoi pas. Est-ce qu'Elias pourrait faire de nouveau un twist où il va révéler qu'en fait il est. Bon, finalement, son côté ambitieux. Elias, je l'aime bien parce que c'est vraiment le côté enchanteur méchant mais pragmatique qui aligne très bien avec Léo Dagan. Donc, je doute
qu'il. C'est l'enchanteur business, quoi. Puis justement, je le vois pas trop, Elias, se retourner. Donc, je sais pas, mais on verra bien de ce côté-là. Mais moi, je vois bien comment ça pourrait entrer en contact avec soit la storyline de Anna, soit celle de Lancelot.
Peut-être qu'on peut y voir un truc genre druide. C'est un druide, il est pas censé avoir des pouvoirs de feu. Pourquoi il balance un machin de feu? Je sais pas. Peut-être que c'est un truc qui va provoquer aussi le retour de Merlin dans les côtés un peu plus enchanteurs, justement, parce qu'il était vraiment c'est un enchanteur mais un druide qui fait pas beaucoup de magie contrairement à Elias. Bah là peut-être c'est un truc qui va être provoqué par l'émergence de cet autre sorcier, je sais pas.
Ouais, ou peut-être que Merlin, enfin c'est vrai que c'est plus sympa d'avoir Merlin parce qu'on voit souvent dans la série qu'en fait il a des vrais pouvoirs mais qui sont pas si utiles, et c'est vrai qu'on aimerait quand même envie de le voir on va dire sauver la situation je sais pas, en devenant pote avec des loups ou quelque chose. Ce serait un peu sympa maintenant qu'on a des effets spéciaux, pourquoi pas le rendre un peu plus, changer un peu cette dynamique aussi, quoi.
En termes de magie d'ailleurs, c'est, ouais. C'est l'autre storyline qui continue, donc les études magiques de Lancelot qui continue à la fois il cherche à invoquer l'esprit du roi Ban, qui est donc, ou de Ban, je sais pas si c'est un roi, dans les runes du château. Mais il n'arrive jamais à parler avec lui, en fait.
C'est ça, il se présente sous la forme d'une espèce de grand colosse spectral devant. Il essaie de se mettre sur la tour, de lui dire « c'est moi votre fils, vous me reconnaissez ?» Et puis d'attirer son attention avec le couteau qu'il lui avait donné. Et il n'y arrive pas. Et puis Méléagant arrive, lui dit d'ailleurs « mais votre père, le roi Ban, c'était un abruti, quoi. » Enfin, puis il le présente. Là, on revient dans le côté plus Camelot où apparemment le père de Lancelot était vraiment un simplet complètement fini.
Après, c'est aussi le côté de Méléagant qui mélange ce côté un peu à la fois divin et petit gouailleur, tu vois, qui parle auteur, qui raconte des bêtises, des ragots sur les gens. C'est ce côté un peu.
On sait pas ça. Mais il me semble que c'était déjà discuté peut-être potentiellement dans la série que les gens disaient le roi Ban, ouais, c'était un. Enfin, il me semble que les gens en parlaient aussi déjà comme un. Je crois, là, je me rappelle plus, je suis un mauvais fan de Kaamelott. Mes bardes de Kaamelott ne m'ont pas instruit sur Ban depuis un moment. Mais Méléagant, du coup, propose de l'instruire en matière de magie noire pour avoir une arme qui pourrait rivaliser avec Arthur, sous-entendu aussi pour frapper les gens de terreur. Il y a un peu cette idée de rapport à la légende et à la réaction des foules. Et il dit, si vous voulez vous opposer, vous devez avoir... Arthur, il a Excalibur, vous devez avoir autre chose. Lancelot plante une petite faux dans un cercle magique. Et il lui dit, fais un cercle, mais pas avec un bâton, mais avec ton doigt, parce que c'est la magie, c'est la chair et la terre, donc c'est très profond. Mais cette magie un peu poétique qui reprend tout le temps, il y a aussi tout le truc de justement, tout le monde dit, Lancelot, il faisait de la magie noire parce qu'il avait une armure blanche. Puis du coup, tout le monde dit, comme si c'était évident, armure blanche, magie noire, évidemment, c'est logique. Moi, j'aime bien ces trucs-là que Asti fait, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de long développement. Ça provoque la venue du démon Sabernock, qui est apparemment un démon assez important, qu'on trouve apparemment dans Lars Goetia sous une autre forme, mais qui est le démon des armes, enfin qui donne les armes et les trucs comme ça, que c'est pas si absurde en termes de.
C'est un peu curieux la réaction de Léo Dagan, parce que donc on peut comprendre que. C'est qu'on peut penser qu'il est allé un peu fort, donc il aurait dû invoquer un démon un peu plus basique pour obtenir cette bénédiction. mais qu'il est surpris, mais en même temps, si le démon est arrivé là, est-ce qu'il va... On peut comprendre ça comme « Mais pourquoi t'as dérangé un démon majeur pour faire ce genre de choses ?» Et finalement, le démon majeur, après avoir un peu joué avec eux pendant quelques minutes, leur accorde lui accorde cette arme magique, cette espèce de triskel un peu...
Basiquement, il les attaque et Mélagan dit « Mettez, foutez-vous à l'abri parce qu'il va nous buter. » Puis donc, il fuit dans les ruines du château pendant un moment, jusqu'à ce qu'apparemment Sabernock parte, et on se dit « Oh, je sais même pas si le rituel a marché. » Et il essaie de sortir la petite faux du sol, et il n'arrive pas, parce qu'en fait, elle est devenue une espèce d'arme de Sith, tu sais, donc trois faux...
Un triskel un peu bizarre.
Un cercle de trois faux comme ça, qui jette des éclairs, ce qui est un des moments fatidiques du film, ça c'est vraiment sur la fin du film.
Ouais, justement, j'aurais trouvé ça plus sympa comme conclusion, comme fin, un peu, ça aurait pu être sympa, quoi.
C'est vrai que ça aurait pu être un truc plus sinistre.
Pendant ce temps, donc, il faut préciser que ça s'intercale avec les quêtes, donc parmi la génération, il y avait toute la bande autour de Bort dans le premier volet, autour de Bort et Gauvin, et donc il y a un groupe qui va se séparer, parce que donc Lucan, le chevalier sèche, qui était joué par un des fils d'Arthur, d'Astier, toujours, dans la première volée, en fait, il se bat sans arrêt avec son frère Trevor.
Enfin, c'est Trevor qui essaie de le tuer.
C'est le neveu ou le cousin, non, c'est le frère, et c'est les frères eux-mêmes de Bédiver, je crois, qui n'apparaît plus dans celui-ci. Hein. Et donc, en fait, ils n'arrêtent pas de se battre entre eux, les frères, parce que Trevor est jaloux. Et donc, Girflay, Lucan et Gérant vont partir. Girflay, qui est un nouveau personnage, hein, d'ailleurs, on ne l'avait pas vu. Hein. Avec d'autres, ils essaient de partir tuer Lancelot, tandis que les autres partent à la recherche d'Yvain. Et donc le groupe de Girflay, Lucan et Gérant arrive près de Lancelot au moment où il y a le démon qui se balade, donc évidemment ils prennent peur, ils essaient de l'attaquer, mais en fait c'est Bort et Lionel qui les ont suivis, qui vont les ramener,
qui les attrapent littéralement par l'oreille et qui les tirent de ce mauvais pas, que moi j'ai bien aimé ce moment, mais comme tu dis, ça aurait presque été plus marrant d'avoir le cliffhanger à la fin et puis que le prochain film commence avec cette scène là tu vois.
Ou alors ça aurait été une scène, alors qu'on les aurait vus en train d'attendre, et ça aurait été la scène d'après les crédits, quoi, ou de
ouais.
Je sais pas.
Moi, c'est vrai que tu as raison, je pense que dramatiquement, ça aurait peut-être été plus de tension. Après, ce serait encore plus vache pour un truc qui va attendre un an, mais ça aurait presque mieux marché d'avoir le deuxième film qui commence, puis de te dire, ah, en fait, non, il va. Là, ça aurait été un fake-out que j'aurais pu trouver sympa. Après, peut-être je me serais plaint aussi, je sais pas. Mais j'ai bien aimé ça, parce que je trouvais que ça montrait Bort et Lionel un peu dans une position de compétence, et puis qu'au niveau comique, ils sont là, ouais... Et puis le panier du goûter, il s'appelle Reviens. Enfin, le côté un peu, toujours ma théorie, scout unifié de Kaamelott. Mais du coup, effectivement...
L'autre moitié de leur groupe, donc qui se sont séparés, partent à la recherche d'Yvain, mais ne le trouvent pas. Ils finissent par se... Et je me demande si ce n'est pas une des raisons pour lesquelles ça a poussé Astier à ne pas mettre la scène avec Lancelot à la fin, parce que du coup, il fallait qu'il se retrouve dans son idée. Mais c'est ça, je pense qu'il y a des problèmes aussi liés au fait qu'Astier essaie de combiner trop de trucs séparément. Parce qu'il y a des idées derrière, mais du coup ça marche pas en moment par moment en fait.
Et ou des fois c'est pas entièrement clair, c'est-à-dire que ceux-là ils partent chercher Yvain, ils le retrouvent pas. Alors peut-être qu'un twist c'est qu'en fait ils l'ont trouvé mais qu'ils le disent pas, ça me paraît très bizarre.
Mais en tout cas, on sait qu'il va être dans le deuxième volet en fait.
On sait qu'il va être dans le deuxième volet.
Donc c'est un peu bizarre de les faire revenir, tu vois.
Moi je pense que ce sera le truc de Yvain qui est en mission secrète et puis qui leur a dit de rien dire, un truc comme ça à la con, c'est possible.
Je sais pas.
Mais ce qui est dommage, c'est que quand ils reviennent, ils bouffent, Trevor essaie de nouveau d'empoisonner Lucan, et après on le voit un peu partir au loin avec un baluchon, et moi j'ai pas du tout télégraphié ça, mais tout le monde dit en fait il part tout seul dans son coin parce qu'il en a marre de cette quête, et c'est un truc qui peut-être le film aurait pu plus insister là-dessus, parce que moi c'est en lisant les critiques que j'ai vu ça, et que dans le film je vais pas, enfin...
Ouais.
C'était pas assez marquant pour que je me dise « Ah, il part en quête, quoi. » Et ça, peut-être, il aurait fallu peut-être plus forcer le trait.
L'autre histoire qui aurait, je pense, mérité pour le coup, soit d'être carrément retardé, soit de se terminer sur une note plus... soit d'avancer un peu le narratif. C'est l'élément que j'aurais aimé voir, en fait, et je pense que c'est un peu dommage de l'avoir... Autant donc l'élément de Lancelot, moi je pense qu'ils auraient mieux fait de laisser la révolution de la quête sur la mort de la chasse à Lancelot suspendue justement à la fin, et on n'aurait pas vu les chercheurs divins, parce que s'il est dans le prochain film, ça sert à rien de montrer leur échec peut-être, mais enfin peut-être que ça fait partie du truc. Et de l'autre côté, donc Mabon, donc la femme de Petrock qui n'est sans Petrock, Megan, Yagou et donc Garrett partent dans des régions glacées. Ils chassent le dragon opalescent. Le dernier de son espèce, censé être le dernier de son espèce, exactement. Ils sont pas super bien équipés pour le froid, ils sont en train de mourir.
Alors,
de
ils
froid,
le chassent, mais pour le protéger. Hein. Oui, c'est un truc où ils veulent c'est pas des braconniers, justement, ils veulent le défendre contre les braconniers. Donc c'est un peu. C'est à cause du wokisme maintenant, on peut plus tuer des dragons, on est obligé d'avoir des quêtes où on va les protéger et tout.
Elle tombe sur une dame qui s'appelle Varese Nota. On nous dit son nom, elle dit son nom, je crois. Hein. Elle a une chance d'être une trappeuse qui vit dans ces terres froides, genre islandaises. Elle partage leur feu, elle leur donne du pain. Et en fait, quand ils se réveillent, ils sont empoisonnés, ils sont malades, ils ont été dépouillés de leur argent. Ils arrivent à la retrouver. Et en fait, elle pensait qu'eux étaient des braconniers qui essayaient de tuer le dragon. Et donc, elle s'est vengée sur eux préemptivement. Mais elle leur dit, non, le dragon, en fait, il a déjà été tué par un certain Alfarn. Qui, spoiler alert, sera joué dans le prochain volet par Franck Dubosc. Donc, si, on verra si Franck Dubosc... comment fait Franck Dubosc un genre de méchant. Et du coup, le groupe, alors qui est toujours en train évidemment d'avoir la chiasse, jure de retrouver et de venger le dragon et de partir à l'aventure. Donc ça, c'est tu vois, l'élément un peu satisfaisant du truc, quoi. Ça aurait dû intervenir plus tôt dans le récit. Et après, on aurait dû avoir un élément qui rappelle où ils en sont, ou alors carrément avancer la résolution, quoi. Je sais pas. Enfin, ou alors retarder tout ça. J'ai trouvé ça très frustrant, en fait, comme.
Moi, j'ai bien aimé je trouvais qu'ils étaient assez bons pour présenter le. Enfin, je trouve que Astier est parfois assez bon pour développer son univers sans trop faire justement le mec de fantasy qui te raconte. C'est que justement quand il raconte le dragon, puis il dit puis du coup c'est le dernier de son espèce, donc il a pas de chance de. Puis il dit si c'est une femelle, les dragons ils ont pas besoin, ils peuvent avoir des enfants. Puis ok, donc tu as un petit élément sur la présence des dragons dans cet univers. Et puis. Par contre, le twist qui me paraît un peu... j'espère que c'est pas ça et que c'est quelque chose de plus intéressant, ou en tout cas qu'il y a une conclusion, parce que le twist évident, c'est que Varese Nota est en fait le dernier dragon opalescent.
Ah, moi, je pense à 100%, c'est une femme. On nous a parlé de dragon femme.
Son maquillage est opalescent. Son maquillage est littéralement opalescent.
C'est le twist of The Witcher, oui, tout à fait.
C'est dans la saison 1 de The Witcher, mais c'est pas le seul. C'est vraiment devenu un cliché à ce stade, parce que ça coûte trop cher d'avoir des dragons, et donc t'as toutes les séries fantasy qui font, en fait, imagine le dragon, il a une forme humaine, parce que ça coûte moins cher à filmer, et puis en fait c'est un twist à la fin, vous l'avez pas vu venir, il y a un épisode de The Witcher qui est exactement comme ça et que tu vois venir à des kilomètres, et j'ai l'impression que maintenant tu le vois partout, donc je suis plus si surpris. Donc ça, ce serait mon pronostic, mais effectivement je me demande ce que ça va être ce Alfarn. Ça a l'air d'être quoi, des espèces de chasseurs norrois, scandinaves, vikings, un peu un avant-poste dans le Grand Nord. Est-ce qu'il serait lié aux Saxons, peut-être? Ça pourrait être marrant justement que les Saxons reviennent dans l'histoire, qui est des espèces de Saxons.
On sait que les Saxons seront dans le prochain volume, parce qu'on nous a, on sait que dans le cast, donc il y a Jenny Beth et Sting qui jouent respectivement Ulfstan, astérisque fille, et puis Sting joue
Hengist.
Il joue Orsa, je crois. On n'a toujours pas vu Hengist techniquement. Et puis il y a un personnage qui s'appelle, je crois, Valkr. J'ai regardé les noms de tous les personnages dans le prochain film. Ça pourrait être une assez bonne candidate pour un. C'est la musicienne Lucy Sue, je crois, qui va jouer. Donc probablement une Saxonne aussi. Ou du moins, ça ne m'étonnerait pas. Mais du coup, est-ce qu'ils seront liés à Alfarn et aux chasseurs aux chasseurs de dragons, peut-être. Il y aurait un sens, je ne sais pas, siegfriedien, peut-être, là-dedans.
Ouais, peut-être. Je sais pas, je suis déjà... moi, j'ai pas regardé le casting de la deuxième partie plus que ça, donc je dois déjà me remettre de la présence de Franck Dubosc dedans, donc je suis un peu méditatif dans les prochaines minutes.
On sait qu'il y a, aussi un Heming, qui est un nom de roi du Danemark, historiquement, donc possible
que... dans l'anachronisme Kaamelott, il y avait déjà des Vikings, donc ce serait pas un problème...
Bon, pas plus que ça, effectivement. Mais voilà, en tout cas, effectivement, moi, je mettrais beaucoup de billes, évidemment. J'ai pas pensé du tout. En fait, je me suis pas du tout imaginé ça. Et après, dès que tu l'as dit, je me dis, ah, mais oui, bien sûr. Donc, tu vois, c'est peut-être pas si évident que ça, même si j'ai, pour le coup, lu et vu l'épisode, l'histoire de Witcher, où ça se passe. L'histoire du sorceleur, pardon, en français, où ça se passe, j'ai vu la série. Donc, entièrement possible, hein, même probable. Enfin, on parle d'un dragon, je pense que je serais pas surpris qu'on nous montre un dragon, effectivement. Et comme tu dis, maquillage opalescent, et le fait qu'on ait fait une référence explicite au fait que les dragons femelles existent, enfin, peuvent avoir ont pas besoin de mâles, et qu'on croise une femme dans le Grand Nord avec ce maquillage opalescent, c'est quand même très, très...
Qui promet de les mener à sa taverne, etc., et qu'elle est renseignée, ouais, c'est un peu... Je serais pas surpris, peut-être qu'il y aura un twist plus intéressant, je ne sais pas.
À voir.
Et puis, on a la dernière storyline aussi qui, là, traverse un peu tout le film et qui est censée être le truc qui l'unifie, mais on n'est pas, vous avez compris, on n'est pas très convaincus. Mais c'est celle de Caradoc et compagnie, quoi.
Et Caradoc, donc, reçoit des lettres de Perceval qui part à l'aventure, qui lui dit toujours des bêtises à moitié en écrivant, mais voilà, on a quand même l'effet Perceval avec les confusions de mots et le côté un peu...
Les lettres sont assez marrantes, je trouve. Elles ont, on en a deux, en fait, dans le film. Une où il dit je me suis fait voler mes vêtements et puis j'ai trouvé un vieux qui a piqué tous mes vêtements, mais il m'aide à écrire cette lettre parce que Perceval ne sait pas écrire, donc il doit faire dicter ses lettres. Et il essaie de dire Et puis il y a sa deuxième lettre qui est assez marrante où il dit « Je promets de vous trouver le Graal dans 15 jours ou au plus tard dans 2 semaines ou au plus tard dans 15 jours. »
c'est drôle, ouais. C'est très personnel, ça, le Perceval est là, quoi.
C'est très personnel, même s'il n'est pas là, quoi, donc ça marche assez bien. Mais ce qui va être la storyline, c'est que la Dame du Lac se pointe chez eux. Elle a des rêves un peu prémonitoires. Caradoc aussi a des rêves d'un bateau qui sombre dans l'eau.
Qui est le même rêve qu'Arthur a eu au début du film, donc.
Le même rêve qu'Arthur, ils sont apparemment connectés par ce rêve. Et la Dame du Lac dit, vous devez partir en Méditerranée. Je sais que c'est la Méditerranée. Puis donc, elle a des rêves un peu flous, puis elle ne sait pas tout à fait. Mais elle dit, OK, c'est la Méditerranée, c'est lié au Graal, etc. Et elle se rappelle, ils vont avec Vénèque en Méditerranée, avec le tavernier et
collègue, donc, le soupirant de Guenièvre.
L'ancien soupirant de Guenièvre. Jusqu'à Portus Albus, donc c'est le détroit de Gibraltar, en fait, port blanc. Et il trouve un vieux. Alors ça, c'est hors champ. C'est assez marrant parce que c'est aussi un truc que Astier disait. Il faut pas trop le faire, mais moi que j'ai toujours aimé qu'il fait. C'est justement, ils disent, on a rencontré un vieux. Il nous a dit qu'il connaissait un bled qui s'appelle Trois Fontaines parce que la Dame du Lac avait Trois Fontaines dans ses visions. Et il faut y aller. Et puis en fait, là, on est au moment où Lancelot a eu son arme enchantée et où le groupe des jeunes allait leur sauter dessus. Et la Dame du Lac a envie de gerber. On sait pas ce qui lui arrive. Et puis elle est téléportée, rappelée par les dieux. Ses compagnons continuent quand même la quête et ils vont en Sicile. Je précise que là, c'est une scène qui est très... On se déchaîne sur les costumes, on peut leur faire des costumes un peu méditerranéen antique, on a une scène de porc avec plein de figurants. Il y a une scène un peu ridicule où Caradoc se fait lapider avec des légumes qui est vraiment hyper mal tournée, je sais pas pourquoi. Le montage est affreux. Genre, la scène ne marche pas. Je sais pas pourquoi, je mentionne juste ça. Pour moi, là, il y a eu un problème. Et puis... La Dame du Lac est de nouveau apparemment sur le plan d'existence des dieux, donc elle peut réapparaître à Arthur, mais les messages sont un peu brouillés, pour lui dire de lire son courrier.
Mais d'abord, elle apparaît toute petite, et après elle apparaît en gigantesque, c'est assez rigolo. Comme si elle avait un peu de peine à
ramasser. Ouais, c'est ce qui se passait déjà un peu dans la saison 6, enfin, à ce côté, la télé est mal réglée. Et puis, il a une lettre de Vénèque qui informe que quand ils sont arrivés à Trois Fontaines, en fait, ils se sont fait capturer par des espèces de soldats patibulaires et un peu sinistre, pas des zombies, hein, mais qui sont pas très énergiques, quoi.
Mais l'effet, ça faisait très zombie, hein, quand même.
Ouais, c'est très... La scène, c'est le village solitaire où les gens sortent et on comprend pas est-ce qu'ils sont hostiles ou pas, puis ils les emmènent. Et il les rejoint avec Guenièvre pour les retrouver en prenant notamment le courrier. Puis il dit « Ah, mais on a la lettre de Perceval qui sent mauvais parce qu'il a foutu un bout de fromage qui a moisi dedans. » Et Arthur est vraiment en mode « Ouais, je m'en fous, lisez-la si vous voulez. » Puis c'est Guenièvre qui la lit. Et puis... justement, qui dit « Je vais trouver le Graal bientôt, dans 2 semaines, ou au pire, dans 15 jours. » Et Arthur la balance par-dessus bord. Ce qui me paraît justement un peu pas dans son personnage. Genre, il est prêt à tout lâcher pour aller sauver Caradoc, sans prendre plus d'aide que ça, d'ailleurs. Parce que bon, on est dans Camelot, donc il faut voyager en solitaire tout le temps. Et en même temps, Perceval, pour qui il avait toute cette affection, etc., avant, lui écrit des lettres, il s'en fout. Je trouve que c'est juste pas... c'est pas dans le personnage, quoi.
Peut-être qu'on va nous révéler un truc sur le fait qu'il s'est brouillé avec Perceval, en fait.
Ouais.
Ou peut-être qu'il sait que c'est pas Perceval, que c'est Arthur.
Ouais. Peut-être, je sais pas comment il va rabibocher ça. Je trouve que Astier est pas très bon à je trouve qu'il est pas très bon à amender des histoires après coup et que j'espère qu'il a un plan, quoi. Maintenant, il passe son temps à le réécrire, donc je sais pas ce que ça va donner. Arthur dans le bateau fait de nouveau le rêve du bateau qui s'échoue, que Caradoc semble aussi faire, et on a l'impression que le bateau passe sur un récif et se fait casser. Et la scène post-générique montre que Arthur est sous l'eau. Caradoc, il a ce rêve en prison, apparemment. Ils sont connectés par le rêve. Et c'est la fin. Donc apparemment, Arthur, Guenièvre et compagnie sont échoués, peut-être. On ne sait pas. Voilà. Voilà où on en est.
Et donc, franchement, il y a un côté vraiment... très bizarre, quoi, là-dedans, je trouve, cette conclusion, déjà, qui est... Parce que toute la... Il faut bien savoir que c'est pas comme si le c'est vraiment très rapproché, les scènes avec Perceval, avec Caradoc en Sicile ou dans ce village en tout cas, qui mène ensuite à la scène où Arthur avant, ça fait vraiment très compressé, alors qu'en fait il a dû se passer des mois. Mais en fait, on a l'impression que le tempo du film accélère à vitesse super grand V à la fin, alors que comme si c'était tout un truc un peu post-générique, en fait, une espèce de conclusion, ça aurait été un épilogue dans un roman. Parce que le vrai climax du film, pour moi, c'est vraiment la scène avec Lancelot qui fait son arme, en fait. Et quand tu fais un film comme ça, et je pense que fondamentalement, un des problèmes du film comme ça, c'est que si t'as une scène comme ça qui est ton climax, ben, en soi, si t'as un film qui est tu finis une saga ou tu finis une histoire, tu sais pas quand il y aura un film suivant, tu peux prendre du temps après pour lancer d'autres pistes, pour conclure des histoires. Ouais. Mais si c'est le premier volet d'une suite qui doit intervenir après, tout ce que tu mets après, ça va relâcher la tension et ça va provoquer inévitablement cette fin en queue de poisson, quoi.
Je sens que Astier, une fois que le film est sorti, il va de toute façon faire une version director's cut qui aura peut-être un rythme un peu plus adapté pour un long visionnage, ou alors un visionnage en subdivision plus petite. Je le vois très bien faire ça, notamment aussi parce que en fait le film marche assez bien en vrai par rapport à il y a un public fidèle, et en même temps y a cette question de est-ce qu'il va pouvoir faire la suite, c'est-à-dire que
c'est sûr qu'il a pu faire le deuxième volet, ça c'est clair.
Alors le deuxième volet c'est sûr parce qu'il est dans la boîte et il sort l'année prochaine, mais la question de est-ce qu'il pourra faire un troisième volet, elle n'est pas garantie. Et c'est possible, alors ce serait tout aussi une tradition arthurienne de longue date de ne pas finir ses trucs, mais que ça ne soit pas le cas. D'ailleurs c'est aussi une tradition arthurienne de longue date que Perceval se fasse écarter de la quête du Graal, hein, on revient un peu au classique.
Oui, oui.
Mais...
Non mais...
Mais ouais, voilà, on est, vous aurez compris... passer un bon moment et en même temps à la fin tu te dis
t'es un peu
bon,
le bec dans l'eau quoi quand même.
Bah espérons que la suite, espérons que la conclusion soit justifie tout ça.
Moi je trouve franchement le problème c'est que t'as vraiment l'impression que il fait de la narration alors que le premier film Kaamelott était vraiment écrit comme un film. Là j'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à une narration de série TV en fait ou de film Netflix.
Moi, une partie de Donjons et Dragons.
Oui, un peu de ça aussi, possiblement.
J'ai l'impression d'avoir une partie de Donjons et Dragons où on a split the party et puis on n'arrive pas à les ramener ensemble parce qu'ils continuent à partir dans des directions différentes.
Peut-être un peu de ça. Mais vraiment, tu vois, tu imaginerais le rythme de diviser, disons, ça fait, le film fait quoi, 1h20, tu pourrais faire deux bons épisodes. Même, tu vois, même la fin sous l'eau, ça ne me choquerait pas si tu savais que deux semaines plus tard ou une semaine plus tard, tu aurais un épisode 4, un épisode 3 où tu vois l'issue de ça, tu vois. Mais là, en conclusion d'un film d'un an après 2h20 2h20 de film, ça fait un peu beaucoup, quoi. Tu pourrais faire une narration efficace, je pense, en faisant peut-être qu'on découvrirait qu'il y aurait eu que ça aurait été mieux d'avoir un troisième film, peut-être en coupant vraiment cette espèce de fin, le départ de la quête pour la Sicile, de conclure tout ça en fait avec le Arthur qui...
Le film aurait vraiment été indigeste, ou alors il aurait fallu faire un truc comme Le Seigneur des Anneaux, mais dans les livres, tu sais, le truc excellent que fait Le Seigneur des Anneaux, qui était de suivre des personnages différents, et du coup ça crée un suspense montre. Ça marcherait pas bien dans Kaamelott du tout, je pense.
Non, parce que dans le livre, c'est vraiment un livre, le premier livre du dans les deux derniers volets, en fait, dans les deux derniers tomes, t'as vraiment cette division du livre 3, où il y a que le volet Aragorn, Legolas, Gimli qui vont récupérer les autres hobbits et se battre contre l'Isengard, et de l'autre côté la quête de Sam et Frodon, et pareil dans le deuxième livre en fait, enfin tout est purement comme ça.
Mais là, le problème ça c'est difficile. Que ça marche quand toutes les storylines convergent dans une direction et que du coup tu as ce suspense de mais comment on a laissé ces personnages là il y a 100 pages, qu'est-ce qui va leur arriver. Là quand tu as des gens qui partent dans tous les sens, c'est pas possible. C'est
je comprends, d'un côté je comprends qu'on n'ait pas voulu dire à Alexandre Astier, non, quand il a dû se dire bon on va pas en faire un film on va pas faire un film de 4h30 5h, ça a aucun sens, donc on va faire deux films. Mais en fait là la question qu'on aurait dû se poser c'est pourquoi pas en faire trois peut-être. Alors, t'as jamais envie de rajouter encore un film dans cette situation-là, je conçois bien. Mais là, tu vois, narrativement, tu finis le film, je sais pas, 20 minutes plus tôt, une demi-heure plus tôt. Et alors, la question, c'est est-ce qu'il y aurait assez de matière après pour justifier de faire deux films ? Est-ce que ça aurait fait un deuxième film beaucoup trop long par rapport au premier film ? Est-ce que t'aurais pu ramener des éléments ? Et là, je pense que peut-être qu'il y aurait pu moyen, en coupant tout l'élément de la Sicile, ou en tout cas en réduisant un peu ça, par exemple, en arrêtant ça au cliffhanger avec qu'est-ce qui arrive à Caradoc, par exemple. Mais du coup, le problème, c'est que ça n'a pas évidemment d'issue pour Arthur, en fait. Et ça, je pense, c'est un des problèmes fondamentaux du film. C'est que le seul moment où Arthur, à partir du moment où il lance la table ronde, si tu veux que Arthur... Si tu pars du principe qu'Arthur est ton protagoniste, ce qui est le cas pendant toute la première moitié du film, parce que c'est quand même lui qui est suivi, c'est son refus de l'aventure, c'est le fait qu'il finalement qu'il consente à lancer le processus de la table ronde. Et finalement, après, en fait, c'est tout ce problème-là. C'est que si tu veux conclure sur quelque chose que fait Arthur, bah, si la prochaine étape pour Arthur, c'est de partir en Sicile à la recherche de Caradoc, t'es un peu obligé de le mettre là-dedans si tu veux conclure sur Arthur. Et donc, du coup... tu te retrouves avec cette structure, ce problème de structure un peu super accéléré à la fin pour faire arriver Arthur là. Donc, c'est fondamentalement un problème du récit en lui-même, hein, ouais. Parce que tu te retrouves un peu embarqué dans là-dedans. Peut-être qu'il aurait fallu résoudre ça et avoir un autre cliffhanger à la fin, je ne sais pas.
Je ne sais plus si l'ordre du montage le permet, mais en fait, moi, j'aurais presque fait que Arthur il parte à l'aventure, mais pour créer des dynamiques qu'on n'a pas vues, en fait, il partirait avec les jeunes, tu vois. Genre, il dirait, bon, on va aller aider Caradoc, puis t'as les jeunes qui sont, ah non, on n'a pas de quête, on vient avec vous. Et puis, tu aurais ce côté Arthur blasé, mais en même temps, les jeunes qui le poussent et qui l'emmerdent, et en même temps, il est attendri. Enfin, tu vois, tu pourrais avoir cette dynamique-là, mais non, il faut qu'il parte seul avec Gunnir. Et le problème de cette quête-là sur Portus Albus et tout, c'est que c'est ce qui s'approche le plus de, apparemment, la quête du Graal ou la quête importante du film. Et en même temps, le mystère n'est pas intéressant. C'est j'ai eu un rêve qu'on doit aller par là-bas. Il n'y a pas une vision bizarre, il n'y a pas une énigme à résoudre, il n'y a pas d'idée de ce qu'on pourrait rechercher là-bas. Et même le sens de mystère de ce rêve que tous partagent, on n'a pas
et vu que ça va tellement vite,
t'as pas pour aller en avant.
Et même si le raisonnement de la Dame du Lac, qui sait absolument qu'elle doit aller pour là-bas, je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'a pas le temps de vivre avec, parce que tout de suite après, ils sont capturés, et donc ça passe à Arthur qui doit aller faire cette quête. Enfin, tu vois, moi, j'aurais été beaucoup plus satisfait si... effectivement, il y avait eu ce petit coda de bon, bah, l'âme du lac a disparu, ils vont quand même, ils se font le truc. Et là, c'est ça qui motive Arthur à retourner à l'aventure et qu'on en fasse un peu plus. Et peut-être que ça serait terminé sur un truc, peut-être que tu aurais pu terminer sur un truc, une espèce de double espérance. Lancelot qui fait un truc méchant avec son épée, ou avec sa triple faux. Peut-être que tu aurais terminé sur un aperçu du dragon ou une référence où les héros du dragon qui arrivent chez Alfarn et tu vois une espèce de contrée bizarre, menaçante, et t'as Arthur qui part à l'aventure, et ben là, tu vois, t'as relancé pour le prochain truc, mais tu conclus sur une position de qu'est-ce qui va se passer maintenant, on y va, quoi. Un peu à la fin, comme un peu comme la fin du premier de la communauté de l'anneau pour le Seigneur des Anneaux, ou la fin du... où t'es sur un truc un peu dynamique, quoi. Là, le fait que en fait, ça préempte tout ça et tu finis par cette espèce de scène. Alors, ça fait une cohérence avec le rêve au début, mais d'un autre côté, c'est dommage parce que tu ça accélère complètement sur la fin et t'as l'impression d'avoir cette espèce de whiplash, quoi, comme on disait.
Ouais, on va voir ce que ça donne. Moi, je suis... Bon, vous aurez compris. Moi, je partais... tout le monde était très négatif, donc moi, je partais très contrarien pour aimer le film et ça a été une bonne expérience. Et en même temps, sur le côté... les bouts d'histoire que j'aime, c'est dur de trouver. J'aime beaucoup la scène de la table ronde et tout. Mais même sur le côté de la gouaille de Kaamelott, qui est censée être la qualité absolue, j'ai vu que dans la tournée de promotion, Astier, on lui demandait « Mais c'est quoi pour vous la meilleure réplique ?» Puis t'es là « Ah, apparemment, la plus iconique, c'est quand je dis « Tout doux les foufous ». Puis je suis là « Ouais, bon, bah, écoute, si on n'a pas plus iconique que ça, effectivement, ça va peut-être être difficile. » Mais enfin, pour conclure, toi, tu voudrais peut-être revenir. On a déjà parlé un peu de nos pronostics, mais est-ce que tu avais d'autres pronostics pour la suite,
non,
ou d'autres
envies ? Forcément, je ne vois pas vraiment. Je pense qu'effectivement, comme tu dis, autour de Caradoc, on va avoir une espèce d'interprétation de la quête du Graal, ou en tout cas une espèce de déclaration. Le lien avec l'eau, avec la submersion, je pense, et ça va peut-être éclairer des choses par rapport à la notion de la Dame du Lac, son rôle là-dedans. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal de fils qui peuvent être liés autour de ça. Donc ça c'est intéressant, et je pense que c'est un peu le... Je me demande si certains des problèmes, c'est pas le fait qu'Arthur, que Castier, pardon, je vais pas dire, c'est le problème Castier est pas vraiment ait eu un peu de peine à jauger ou couper son film, parce que vraiment pour lui ça se voit comme un tout avec le deuxième volet, ouais. Quoi. D'où c'est un... Et peut-être d'où cette insistance au fait d'avoir cette notion premier volet deuxième volet. Peut-être qu'au final quand on regardera tout ensemble ça ira très bien. Et peut-être que rétrospectivement cette confusion un peu à la fin nous paraîtra effectivement pas trop mal, parce que ça permettra d'avoir un deuxième volet qui répond à plein de questions, qui est plein de... Mais je sais pas, il manque quand même pour moi vu la longueur à l'allumage, je trouve qu'on est quand même un peu en droit de se dire il aurait quand même fallu mettre un peu plus de trucs d'abord, quoi. Un peu plus biscuits, soit franchement allumer ce côté préparatoire. Mais du coup, le montrer plus en évidence. Parce que là, on a l'impression qu'Arthur, il part un peu. Le départ d'Arthur, c'est pas présenté comme un truc, voilà, une résolution particulière, ou il n'y a pas un apparat particulier. C'est vraiment, voilà, il part. Alors qu'on aurait pu en faire. Ça aurait pu être l'occasion d'en faire un truc plus réflexif, plus. De commenter plus sur cette volonté d'Arthur de repartir, cet appel à une quête différente, je sais pas. C'est très difficile de c'est le problème du film, c'est qu'il est difficile d'en parler comme d'un objet complet, en fait. Et peut-être que c'est aussi le péril d'avoir voulu faire à tout prix du cinéma, et c'est le seul truc qui peut justifier peut-être la débauche de moyens, en fait. Ça aurait été peut-être difficile de le faire à la télévision, effectivement, avec ces budgets-là. Mais d'un autre côté, le rythme de narration reste, pour moi, très télévisuel, et je me demande si c'est en partie peut-être l'influence de l'écriture. Beaucoup de la fantasy moderne se voit à la télévision, en fait. Et j'ai peut-être un symptomatique de ça. C'est peut-être un symptôme de ça, en fait, là-dedans. Donc, le fait que la narration s'envisage plus facilement comme un truc épisodique, où on se dira non, ça passe, plutôt que comme comme quelque chose de réellement. Tu vois, on fait un film au cinéma, ça doit être un truc auto-contenu. Donc peut-être que ce côté vraiment.
Ce qui est marrant, vu que les références d'Asti, c'est vraiment Star Wars, le monomythe, c'est assez marrant. Mais c'est vrai que c'est un format qu'on fait peut-être plus assez. Moi, on s'approche de Noël, puis un de mes films préférés de Noël, c'est l'adaptation du Hogfather de Pratchett, qui avait été faite pour la télé, qui aussi est un truc de 4h30. Et je pense que si tu le coupes en deux, c'est à peu près pareil. Ou si tu voulais en faire deux films, ce serait horrible, mais pour une nuit de Noël où tu regardes ça après avoir ouvert tes cadeaux, puis tu vois que ça passe à minuit et tu regardes ça. Moi, c'était une des plus belles expériences de film de Noël que j'ai eu quand il est passé, je crois, en 2007 à la télé. Mais pareil, c'est peut-être que Asti a tenté un format qui, en fait, il a dû couper à cet endroit-là, il s'est retrouvé avec un problème insoluble. Les studios lui ont envoyé des mafieux pour lui dire « Tu sors un film à un an deux films à un an d'intervalle, tu n'as pas le choix. » Je ne sais pas. On espère le meilleur pour la suite. Moi, j'ai mentionné nos pronostics. Bon, Veras Nota serait le dragon. Le filtre magique sera bu par Anna et par Arthur. Et,
ça, je me demande quand même avec le temps Anna. Si ce serait pas potentiellement... Il n'y aurait pas forcément un twist ou quelque chose comme ça. Parce que ça t'est tellement télégraphié.
Ouais, c'est ça. Et moi, je pense que peut-être Anna récupère la matrice pour en faire une espèce de Mordred Uruk-hai, tu vois, qui sortirait du... Un peu comme les Uruk-hai dans le film, qui sortirait d'une espèce de poche de glaise dans le sol. Ou bien peut-être par Lancelot qui réussit... le projet était déjà lancé. Et peut-être que Yvain a été retrouvé par...
Je pense pas, ce serait trop... En plus, c'était Gauvin avec lui, ils étaient avec Gauvin, hein. Gauvin très vraiment.
Ouais, c'était le groupe de Gauvin.
Je pense que ce serait pas privé. Si c'était vraiment rencontré, ça aurait été dommage de pas montrer cette... Alors peut-être qu'on la verra en flashback, je l'ai dit, mais...
En même temps, je suis un peu sceptique. On voit tellement rien de leur aventure. Tu vois, contrairement aux autres storylines, on les voit partir et après on les a vus revenir et on n'a rien vu ce qu'ils ont fait. Donc je me dis, peut-être que Astier garde une carte de ce côté-là. Je sais pas. Donc, ce qu'on espère pour la fin du deuxième volet, c'est le lancement de... qui lance vraiment la storyline Mordred, etc. Et puis, du coup, le troisième volet serait... chute du royaume arthurien, quoi. Ouais. Il sera obligé de le faire. Il sortira le troisième volet sur TikTok, en fait. Il aura plus les moyens de faire un film.
Ultra court. Des épisodes 30 secondes.
Vous voulez un format court, les gars ? Des épisodes, des shorts de 2 minutes en vidéo verticale.
Après, ça reste très Astier, finalement, tu le dis, qui a depuis le début essayé de faire entrer le truc qu'il voulait raconter dans le format qu'on lui imposait. Hein. Donc, c'est fort probable que ce côté « Non, tu peux pas sortir un film de 4h30, mec. » Ça fait que tu dois faire deux films de 2h20. Je fais le choix radical de faire un film qui est littéralement un truc incompréhensible si tu vois pas le deuxième immédiatement après, quoi. Peut-être que je m'attendais trop à avoir un truc à la justement comme le Seigneur des Anneaux, même comme le Hobbit. On peut dire beaucoup de mal, et croyez-moi, je m'en prive pas de dire du mal du Hobbit de Peter Jackson, mais même La Désolation de Smaug, qui est le deuxième film, qui est encore le premier, tu te dis
plus moyen,
ça se termine sur le côté on continue l'aventure, ça va. Autant tu te dirais La Désolation de Smaug, c'est quand même compliqué de faire tout un film avec juste la bataille des 5 armées, mais au moins, tu vois, le film se termine sur cette espèce de cliffhanger. T'as le dragon qui part vers la ville. Alors certes, c'est un peu bizarre d'avoir la mort de Smaug et le truc. Enfin, bref, mais tu vois, il y a quand même une espèce de cohérence narrative là-dedans, et ça se termine sur un truc. Là, ça se termine un peu en queue de poisson, quoi, ou en tout cas, ça se termine un peu. C'est un coup d'épée dans l'eau à la fin. Ou un coup de navigation dans l'eau, ou un coup de... Enfin, ouais. Bref, toutes les phrases nautiques et submergées que vous pouvez imaginer.
Bon, et puis après, c'est pas si différent de... Finalement, c'est pas si différent de notre dernier épisode, comme tu disais, des prophéties de Merlin. Mais
littéralement, quand j'ai fini de regarder le film la semaine dernière, qu'est-ce que t'as pensé ? Je dis, ah, mais c'est la continuation... qu'est-ce que j'ai dit ? C'est la continuation des prophéties de Merlin par d'autres moyens.
Oui, c'est ça. c'est des storylines, il y a de la nécromancie, il y a des démons...
On introduit un nouveau scribe, parce que le précédent a dû partir pour faire autre chose.
Le précédent a été promu...
Bon, en l'occurrence, il a servi Lancelot, il s'est un des traîtres.
Ah oui, c'est juste... C'est juste.
Il était avec le roi Lot et Galsin et. Bon, on les verra peut-être dans le prochain épisode, cela dit.
Je sais pas s'il était au casting. Après, le casting est peut-être pas exhaustif.
En tout cas, Lot est au programme du prochain. Lot et Galsin sont au programme du prochain, donc je pense qu'on les reverra quand même. Ouais. Mais voilà,
c'est juste.
On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi, hein, avec la matière de Bretagne en général et avec Kaamelott en particulier. Ça restait d'un point de vue des production values, c'était vraiment un beau moment. Le film est, je trouve, mieux encore filmé que le premier. La musique est très bien. Vraiment, hein, tu sens le soin qui a été mis à ça. C'est chouette de voir une production comme ça aussi pour un. Kaamelott, ça reste parfois. Je pense qu'on en est à un stade où la plupart des gens... Enfin, tant que tu évites les cercles de... Parce que parfois, maintenant, je me fais recommander des sites ou des subreddits de fans de Kaamelott, puis je regarde un peu le truc, puis vraiment... Ou des fans sur Facebook, puis j'ai dit « oulala, oulala, oulala ». Heureusement que dans le grand des gens qui vont voir ce film-là ou qui consomment Kaamelott, on n'est pas à ce niveau de je sais pas, d'idolâtrie, parce que j'allais dire vénération, mais c'est peut-être qu'on est un peu au-delà de ça, quand même. On en est à un stade où Kaamelott a atteint, je pense, une espèce de c'est suffisamment connu par tout le monde pour être devenu une franchise vraiment appréciée largement et qui mérite ce genre de film sans être simplement réservé à une espèce de fanbase hermétique et dur à contenter
pénible. Ça a été un succès, mais les critiques sont vraiment négatives, quoi.
Ah non, les critiques sur le film, mais je dis le fait en soi, c'est déjà presque ouais, rassurant
c'est,
que tu vois
c'est
le
endurant,
film
puisse, ça endure quoi,
si,
ouais.
Si le film avait été un échec en salle parce qu'il y avait que les gros fans de Kaamelott qui ont regardé tout plus enfin je me mets un peu dans la barque hein, je vais pas me revanquer comme un fan absolu de Kaamelott qui cite tout le temps Kaamelott qui va penser que Kaamelott comme ça.
Ouais, t'as été le voir deux fois déjà hein, c'est déjà du comportement de fan quand même. Donc voilà, c'était notre perspective sur Kaamelott, deuxième volet, première partie. Rendez-vous dans un an, exactement un an à partir de maintenant, je crois, en novembre, normalement, s'il n'est pas repoussé pour la deuxième partie du deuxième volet, en essayant de voir si ça va nous rassasier d'autant plus. Je pense que là, ça risquera d'être à la fois plus satisfaisant et aussi plus frustrant, parce qu'on aura probablement aussi 5, 6 ans, 4 ans à attendre. Astier dit clairement que le troisième volet se fera pas tout de suite après, donc avec potentiellement d'autres problèmes. Mais voilà, c'était quand même... la saga se poursuit. Moi, je suis déjà surpris qu'elle existe, donc je suis content. Mais en fait, ce que ça m'a fait me dire, c'est que j'aimais pas trop la saison 6 et que peut-être que je devrais la re-regarder parce que en m'en rappelant, je me suis dit, tiens, mais en fait, il y avait des choses intéressantes. Peut-être que par contraste, en fait, ça va me faire mieux apprécier certaines autres parties du lore Kaamelott.
Ouais, ça peut être aussi l'occasion de revenir un peu, vu qu'ils n'ont pas peur d'aller faire dans les deep cuts, hein, ça c'est assez clair. Mais écoutez, d'ici
on
là...
On essaie de vous retrouver bientôt, cette fois-ci sur des textes qui seront peut-être pas beaucoup plus... pas beaucoup mieux rythmés que ce qu'on a vu là, parce que c'est un peu l'habitude qu'on a aussi. C'est aussi, on est un public un peu facile peut-être aussi, parce qu'on a l'habitude de lire des trucs un peu mille fois plus fastidieux que ça, et d'y prendre du plaisir.
Mais
on vous retrouvera bientôt...
Effectivement. Et surtout, n'oubliez pas, là, plus que jamais, évidemment,
la quête continue.